Bonsoir tout le monde et bienvenue au 50e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Myth Quest, la série de science-fiction canadienne où un père de famille est prisonnier du Cyber Museum et ses enfants peuvent se transporter dans des mythes en touchant à des écrans.
Hein?
Hein? Ça se ressemble pas du tout, là. Là où les personnages de Myth Quest touchent à des écrans, nous, ici à Divan Quest, au mieux, on se touche devant des écrans. Je suis Mathieu Bonin, toujours en compagnie de Denis Gravel.
Salut!
De Jean-François Lapas.
Yes!
Et spécialement cette semaine, de Jean-François Cromp.
Bonsoir!
Hey! Vous connaissez peut-être JF, là, de ses nombreuses arrestations pour grossière indécence, mais aussi pour son travail derrière...
On n'en parlait pas dans la pré-interview de ça.
Ben, c'est fait. Oh. Mais oh. Aussi pour son travail derrière la plateforme de podcast RZO, ainsi que sa participation au podcast La Jazette, la soirée du podcast, et bien sûr, pour la plupart d'entre vous, ben, Rétro Nouveau.
Yep, exactement ça.
Alors, ben, comment ça va tout le monde?
Hey! Hey.
C'est vrai, on avait arrêté de poser cette question-là. C'est crissement inutile. Ben, qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine? Commençons avec Dan.
Cette semaine?
Ah, excuse-moi.
Oui, c'est important.
Nous sommes lundi, le 14 août 2017. On en a perdu le beat.
Mais c'est ça qui
arrive. Les vacances,
Ben, quelque chose de même. qui est le American National VJ Day? Alors, on aimerait saluer tous les anciens employés de Musique Plus qui sont à l'écoute. Ah non, attendez une minute. On me dit ici à l'oreille que ce ne serait pas VJ pour Vidéo Jockey, mais bien Victory Over Japan, qui soulignait la reddition du Japon lors de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je retire donc nos salutations à M. Bruno Georget et compagnie. Désolé. Hein? Fait quoi, Adam, qu'est-ce que t'as fait de vous cette semaine?
Ben, je me suis parti un petit projet au début de mes vacances. J'ai décidé de monter un petit Raspberry Pi pour faire un peu de rétro gaming, là, surtout sur les titres qui me demandaient d'hypothéquer ma maison. Là.
T'as pas réussi à trouver de NES Mini, hein?
Non. J'ai découvert des choses intéressantes. Par exemple, la fragilité d'une carte micro SD.
Ah ouais? T'as fait ça?
Ouais, cette semaine, en sortant ma carte micro SD de mon père pour faire d'autres patentes, là, essayer d'autres choses, là, elle a fait crunch.
Hashtag se sortir la micro SD.
Oui. Puis ça casse en deux.
Il y a des spécialistes pour ça.
Fait que ça a fait comme. Puis bon, j'ai passé un autre après-midi à refaire des settings en installant sur l'autre micro SD.
Ah, ça c'est le fun.
Mais quand même. Fait que, tu sais, je me suis amusé, je joue comme je disais à des titres que j'aurais pas joué sinon là, parce qu'ils sont dispendieux ou parce qu'ils sont pas faciles à trouver. Genre, je joue à Robot Trek, j'en reparle tantôt, ce sera mon segment. Sinon,
spoilers.
Ouais, spoilers pis tout.
Ok.
Jouer à Donkey Kong Country avec ma blonde. Je me rappelle pas à quel point c'était rough le premier comme jeu. Genre, zéro là, permissif, ça pardonne pas en tout. Tu fais un petit move, tout croche, puis je suis mort. Hein.
Les contrôles étaient comme floaty.
Ouais.
Tu sais, tu revirais pas sur une scène, là. Il courait un peu comme dans le.
Ouais, puis quand t'es dans les airs aussi, il y a quand même un peu de marge de manœuvre.
Fait que c'est ça, c'était plus dur que je me rappelais à cause de ces éléments-là. Mais j'ai découvert Kirby au NES que j'avais jamais joué. Tu sais, je connais là, mais j'avais pas joué. Puis c'est quand même impressionnant pour un jeu de NES au niveau graphique puis ça, c'est quand même cool. Fait que c'est un jeu qui est maintenant sur ma liste de jeux à vouloir se procurer pour vrai là.
Mais c'est vraiment une des dernières releases de Nintendo.
Sûrement
au
là
NES.
Parce qu'il est quand même là au niveau des couleurs puis tout ça assez impressionnant quand on compare. Beaucoup de lectures en fait. J'ai décidé de recommencer à lire les fondations.
T'avais tombé une phase de dégoût quand t'as dit ça.
La lecture, non, pourtant.
Chance qu'on le filme pas, ce podcast-là, ça serait weird.
Est-ce que je vais sur une larme en ce moment?
Fait que non, beaucoup de lectures sorties des Asimov. Je me suis retapé Ready Player One à cause du trailer de Ready Player One. Si vous l'avez pas vu, vous irez. Lu Sleeping Giants, selon les recommandations de Jeff.
Oui.
Ouais. La porte.
La porte.
Faut stipuler aujourd'hui.
Ben moi, j'y allais avec Jeff puis GF.
Okay.
C'est généralement ça.
Si je vais trop vite, ben tant pis, vous saurez pas de qui je parle.
On vivra dans le doute.
C'est ça, dans le doute et dans le déni. J'ai eu ma petite rechute de... J'ai eu ma petite rechute de wow. Hein, fallait que ça se produise à un moment donné.
Ouais.
C'est okay. Ça. Ça n'a pas été si douloureux que ça, comparé à d'autres. Là.
Ouais.
Sinon, ben... J'ai fait une tentative de jouer à PUBG, là, Players Unknown Battleground.
Ouais.
Une tentative.
PUBG. Ouais.
Ben, elle s'est terminée avec une pelle en pleine face ou une Jeep en pleine face.
Je peux vous raconter mes deux premières games. Ça ne sera pas trop long. Faites-vous en pas, là. Allez-vous en pas.
Rapidement.
Rapidement. La première game, ben, je savais pas qu'on pouvait équiper du linge puis qu'on avait par défaut. Fait que je me suis racheté en bobette.
Living the dream.
J'étais arrivé à peu près en milieu de nulle part. J'ai vu une maison pas trop loin. J'ai dit, s'il y a quelque chose à trouver, ça va être là-dedans. Il y avait rien. Je suis ressorti. Je me suis fait shotter dans la tête et ça finit là.
Ah, fait que finalement, c'est un Saint-Lin simulator.
Ouais, hein, pas mal. Je suis tourné en bobette à être dans une maison qui avait rien. Deuxième game, ben, j'ai trouvé que je pouvais mettre du linge. Fait que je me suis mis du linge, tu sais. Puis j'ai comme viser une maison qui avait l'air plus intéressante. J'ai effectivement trouvé un gun, puis là, je me sentais hot. Là. J'avais un gun, là.
Puis là, t'es sorti, puis tu t'es fait tuer.
Non, je suis sorti, puis là, je sneakais, crouché d'un buisson, à l'autre. Puis là, j'ai entendu au loin... Je me suis fait ramasser par un char. Ça fut ma deuxième game. Après ça, j'ai un ami qui va commencer à montrer un peu les rouages du jeu, des petites tactiques, des stratégies, puis ça s'est un peu amélioré, mais pas tant quand je joue tout seul.
C'est bon, on va. On voulait justement, moi
ça
et
monsieur Kronk. Ouais, on...
Mais pour vrai, ça vaut la peine de l'essayer. Si vous jouez, faites-moi signe, je suis noob, ça va être le fun.
On va être rendu à essayer ça, je pense, tout le monde. Le buzz est trop gros pour l'ignorer. Là.
Voilà. Sinon, on va essayer deux, trois autres trucs, mais j'en reparlerai dans un prochain podcast. Matt?
Moi, en fait, plein de choses, mais principalement des choses alentour du podcast, ce qui fait que, bon, vous verrez tout ça se révéler dans les prochaines semaines. On garde des surprises. Cette semaine, on en avait une, c'est Monsieur Chrome, c'est tout.
Ouais.
Voilà.
Je m'excuse.
Bon, j'allais le faire, mais merci. Bref, j'ai beaucoup travaillé sur des choses pour le podcast qui vont vous être révélées dans les prochaines semaines. Restez à l'écoute. Mais j'ai aussi j'ai eu une rechute. On dirait qu'une ou deux fois par année, j'ai envie de jouer à un FPS. Ouais. Faire une campagne d'un FPS. La dernière fois, ça avait été Call of Duty Infinite Warfare, qui était correct. J'aimais bien l'univers. Le jeu était passable. Mais là, cette fois-ci, ça a été Titanfall 2 qui a mérité mon attention. Oh. Et quelle belle campagne. Je pense que c'est facilement la meilleure campagne que j'ai eue dans un FPS. Point.
Wow, quand même.
Ouais, c'est je dis pas ça à la légère, là. J'ai quand même joué à plusieurs jeux du genre, là, même si je suis typiquement rétro. Mais c'est vraiment une campagne qui m'a tenu en haleine, que je travaillais, je pensais à retourner jouer à ma game. Oh. C'est énorme, c'est engageant, les mécaniques sont hyper intéressantes d'un bout à l'autre. Bref, facile recommandation, même pour le single player. Puis présentement, sur PC, si vous avez Origin Access, ou si vous êtes intéressé par Origin Access, là, le service de EA, quelque chose comme 5$ par mois, qui vous donne accès à un catalogue, il est dedans.
5$ par mois?
Ah, c'est vraiment pas cher. Oh, ouais. Et même chose
sauf sur Xbox. Que ça demande d'installer Origin.
c'est le coût moral à payer.
C'est le coût de ton âme.
Et sur Xbox One, c'est EA Access, mais il se retrouve aussi là depuis le 1er août sur les deux services. Donc, c'est une recommandation facile pour ce qui peut vous coûter de le jouer, finalement. J'ai découvert un beau petit site, petit jeu en HTML5 qui s'appelle The Evolution of Trust, qui est c'est une présentation interactive en utilisant des mécaniques de jeu qui nous présentent, bref, une espèce de jeu où si deux personnes, les deux joueurs ont la possibilité de tricher ou de coopérer. Si tout le monde coopère, les deux obtiennent deux pièces, mais si un triche, il va obtenir trois et l'autre va perdre un. Et à travers cette mécanique-là, il étudie pourquoi les gens dans la société ont perdu confiance, mais il nous l'illustre tout avec des thèmes de jeu, avec des mécaniques de jeu qu'on peut tester, avec une machine mécanique qui montre les différents types d'agents dans la société, puis comment ces acteurs-là, ces agents-là peuvent être modifiés, puis comment ça change avec le temps, puis pourquoi la confiance est dure à obtenir et à maintenir. C'est hyper intéressant. Je vais vous poster le lien sur les différents médias sociaux, mais le site, c'est ncase.me. /trust, T-R-U-S-T, tout simplement. Mais bref, on le postera pour que ce soit plus facile à trouver à votre guise. Mais j'ai trouvé ça très, très intéressant. Ça prend environ une demi-heure là, à faire le tour de tout ça, si on se donne la peine d'expérimenter un peu avec les différents facteurs. Monsieur Laporte?
Ben oui. Comme Danny en a parlé un petit peu, j'ai recommandé un peu de lecture là, cet été. J'ai découvert, grâce à La Verge, ton site favori, Matt. La Verge, qui ont une section.
Oui,
exactement. Mais outre technologie, ils ont un côté phallique de lecture.
Il n'y a aucune façon de spinner ça qui n'est pas fucké. Là.
Mais c'est des lectures différentes.
Oui.
Non, mais ça, à tous les mois, il y a comme un article, c'est comme les meilleurs livres de sci-fi et fantasy qui sont sortis depuis un mois. Puis je vais toujours acheter un œil là-dessus pour voir qu'est-ce qui serait intéressant à lire qui s'en vient. Puis c'est là-dessus que j'ai découvert justement Sylvain Neuvel avec ses. En fait, qui sortait au début de l'été Waking Gods, qui est le deuxième livre de la suite du livre que tu as lu, Danny.
Comment s'appelle l'auteur?
Sylvain Neuvel.
C'est un Français.
C'est un Montréalais.
Oh, OK.
Mais qui a travaillé genre en Asie, au Japon, en Californie. Il a fait un peu de tout, un peu partout.
Je pense que ses études, il les a faites à l'Université de Chicago, entre autres en linguistique.
Puis là, dans ce temps libre, il écrit des livres et il construit des robots.
C'est dans les remerciements à la fin. Il dit que c'est pour son fils, mais tu comprends que c'est pas juste pour son fils.
Donc, ben, en fait, qui annonçait la sortie de Waking Gods, fait qu'en voyant ça, puis ça parlait d'un sujet qui est intéressant, donc des robots géants. Fait que j'ai retracé le premier livre qui est Sleeping Giants, puis je me suis littéralement tapé les deux livres un après l'autre. Ça fait longtemps que ouais, ça sort, qu'il y a comme un trop-plein.
Dans pas long, tu vas mettre des siècles, des raies dans tes phrases, puis tout. Pis...
Ça sent bien, ça sent bien. Nice.
On a hâte.
Donc, c'est ça. Fait que, petite lecture légère et intéressante. Un petit peu, j'ai eu un peu le même vibe que Ready Player One.
Ouais, j'ai pas eu ce vibe-là, mais le format est intéressant parce que c'est comme des chroniques de différents personnages. Des fois, c'est des trucs qu'eux ont écrits ou des entrevues. Fait que ça se lit super bien. C'est très efficace comme lecture, puis l'histoire avance rapidement.
C'est compté tout à travers des documents, quoi. C'est...
Des documents ou des entrevues?
Il y a un personnage principal qui est comme effacé, qui est celui qui fait les entrevues puis qui pose des questions. Puis on le voit à travers tout le livre. Lui, il parle toujours en caractère gras parce que c'est lui qui pose des questions. Puis les autres personnages viennent répondre. Puis à travers tout ça, tu découvres l'histoire. Mais il y a des scènes d'action quand même. Il y a de l'action, mais ce chapitre-là, ça va être le audiologue de leur micro qu'ils ont sur eux autres, mettons, pendant l'action. Fait que t'es entends scaler dans l'action.
C'est un peu comme une version écrite de Serial. Bon, à part le côté que c'est vrai, là, on s'entend, mais le format, je parle du format narratif. Là.
Mais tu sais, il n'y a jamais aucune exposition, aucune description. C'est tout le temps les personnages qui décrivent les choses. Okay. Puisque, absolument, c'est le genre de format qui pourrait être tannant, parce que les personnages pourraient comme aller out of their way pour expliquer des choses. Puis non, lui, il trouve une façon de toujours...
Rester organique.
Ça fait du sens comme conversation. Et comme un des personnages principaux est un Québécois, mais ça l'amène dans un livre en anglais avec tout plein d'expressions québécoises. Super intéressant. Une belle lecture. Fait que si vous cherchez de quoi lire...
Puis vous aimez les gros robots.
Et vous aimez les gros robots et le sci-fi, on ne peut pas faire autrement que vous recommander ça. Sur le niveau gaming, j'ai mis la main au début de l'été sur Shadow of Mordor. Qui est quand même sorti depuis longtemps. C'est le Game of the Year Edition.
Ça avait été rétro, là.
Ça avait été rétro, mais je n'y avais jamais joué. Et je le regrette. C'est vraiment un maudit bon jeu. Qui a beaucoup plus de profondeur quand on commence à s'y donner que ce qu'il laisse paraître au début. Là. C'est-à-dire qu'on commence à découvrir les mécaniques, tout ça. Donc, je ne l'ai pas terminé. Je dirais que je le savoure, je prends mon temps. Donc, mais rarement, je ne suis pas dans un jeu d'aller faire toutes les missions de côté, les side quests, puis chercher toutes les herbes, les troncs, les choses qu'il y a à trouver dans le jeu. Puis ce jeu-là me pousse à le faire étrangement, juste parce que la plupart des side quests vont être le golem, puis c'est intéressant de voir les interactions des personnages.
Beau gros fan service, ça.
Ouais, solide. Fait que j'ai passé une bonne partie de mon été sur ça. Sinon, j'ai passé un gros deux jours sur la bêta de Destiny 2. Qui a eu lieu au mois de juillet.
Vas-y, j'ai le goût d'être excité pour ce jeu-là, fait que je t'écoute.
Ben, je vais pas aller dans la description du jeu, on en sait.
Ben, non.
Non, fuck you. Laisse faire.
T'sais, fondamentalement, c'est. Mais wow. Plusieurs gens ont été disappointed, justement, de Destiny. Mais ça revient un peu à l'éternelle discussion de, t'sais, c'est. Je veux more of the same, mais faut pas que ça soit pareil, parce que je vais dire que. C'est pas un nouveau jeu.
Sinon, c'est un jeu de sport. Là.
Ouais, c'est ça. C'est... Fait que, on se retrouve avec le discours de deux côtés, mais grosso modo, c'est très très bien fait. Toutes les faiblesses, toutes peut-être les choses que j'aurais reprochées au premier Destiny sont plus ou moins absentes de Destiny 2. Puis, on n'a pas vu beaucoup de choses, mais ça promet beaucoup. Et ils mettent beaucoup plus l'emphase sur le jeu en clan et en groupe. Et tout ça. Donc, la notion de clan et de groupe dans le jeu va être beaucoup plus importante. Puis, va être. Était déjà là, mais c'était en dehors de Destiny. Tout ce qu'on avait, c'est le nom qui apparaissait. Puis là, maintenant, ça va être. Mixé à l'intérieur des mécaniques du jeu.
Anyway, on va sûrement avoir ta review quand ça va sortir.
Sûrement. Et je risque peut-être de faire justement. On a un channel Twitch de streamer peut-être quand je vais jouer. Puis qui sait, si vous êtes intéressé à venir jouer, je pourrais donner mon gamer tag. Puis on pourra.
Jeff, tu t'es cherché des amis
ensemble. Ben non, mais je me dis que ça pourrait être le fun de jouer avec d'autres gens qui ont tout le temps les mêmes trois oufs avec qui ils jouent.
Ils sont à l'écoute, bonjour!
C'est le nom du clan, c'est les oufs.
Ah, les oufs? Non, si tu savais le nom du clan.
C'est comme des fans des zigotos, mais ils n'ont pas voulu prendre ce nom-là.
La référence zigoto de 2017.
Le copyright est down.
Il y a quelqu'un qui s'est réveillé.
Check.
Je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé des zigotos. On retourne me coucher.
Donc, Destiny 2. Sinon, on a fait un petit peu de gaming.
Tabarnak, t'en as encore!
Ben, un dernier. Qui inclut Dan, on a fait un peu de gaming old school. On a ressorti nos papiers, nos crayons, nos livres de Donjons et Dragons, puis on a commencé une game de D&D 5e édition.
Ça a geeké fort.
Ça l'a geeké très, très, très fort. On a pu juger par ma blonde, mais c'est correct.
À le droit.
Ouais, non, on s'assume. Rendu là, rendu à passer 30 ans. on accepte nos
On n'attend plus rien de la vie.
Hein? Non, c'est ça. Ouais, c'est correct. Moi, j'ai encore 32 ans au moment où on enregistre
cette jeunesse.
Mais quand l'épisode va être sorti, ça va être réglé.
Fait que, ouais, on est retourné dans notre adolescence, dans nos années de boutons et de sous-sol.
La différence, c'est que cette fois-là, j'avais une blonde.
Puis j'étais pas en train d'espionner JF qui se touche par le
Et il y avait de l'alcool autour de la table.
Il y avait de l'alcool autour de la table.
Ouais, ce qu'il y avait pas dans mon adolescence. Okay.
Pourtant.
Que, c'est pas mal ça.
Puis, M. Cromp, ben, je sais qu'on vous a pas préparé à ça, mais bonsoir. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait gaming,
mais là,
techno, geek?
On parle de stream, justement. Là. Je me suis mis à Twitch, moi aussi, récemment, là, avec le VR, mais là, j'ai commencé à faire d'autres jeux que des jeux VR. J'ai commencé. Mm-hmm. J'étais sur Splatoon, en fait, en fin de semaine. Puis, je suis pas mal sur Splatoon de ce temps-ci. Splatoon 2 qui est sorti là, 2 semaines, je pense. Peut-être un mois même. Un excellent jeu, je sais pas si vous jouez à Splatoon 2, si vous avez joué au premier, là, mais j'étais pas un fan du premier, j'ai pas joué au premier parce que Wii U.
C'est dur
c'est
de
une bonne voir. Raison. Ouais. Hein. Ça a l'air. Mais non, pour vrai, super jeu, vraiment le fun. Je m'attendais à un shooter, puis là t'as un jeu de plus de surface, de guerre de territoire, je m'attendais pas à, mm-hmm. à ce point-là. Puis non, j'aime vraiment.
J'ai déjà proclamé mon appréciation de Splatoon sur le show ici, mais Titanfall m'a retenu de jouer. Je l'ai acheté, j'ai joué une demi-heure, mais on va être dû pour ce pitch-in game de ça ensemble prochainement.
Puis sinon, j'ai dû apprendre la soudure dans la semaine. Moi-même, on est allé à San Francisco, on a gagné un petit mini-drone que j'ai brisé après un seul vol.
Ah, ça a des choses qui arrivent.
Fait, batterie dissoudée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on apprend la soudure ou on achète un drone? Ah, je vais apprendre la soudure. Tiens, le kit coûte plus cher que le drone. C'est pas grave, on est imbécile. On achète le kit de soudure, puis on va sur YouTube, puis on apprend, puis c'est pas si compliqué. Finalement, de soudre des affaires.
Il faut juste que tu mettes les fils dans le bon sens.
Oui, ça a l'air que ça peut faire chier ton installation. Faut que remonté, tu remontes. Ah, l'hélice qui tourne pas à bonne place. Ah, ben, coudon. On apprend tous les jours, hein?
Ou ouais, t'as une diode qui part.
Non, mon expérience, en fait, avec le même drone, parce que c'était sur le même voyage qu'on a acquis, ces drones-là. Le mien est tombé par terre et ma blonde n'a pas du tout les cheveux longs. Fait qu'il se retrouve dans un coin de mur, il a ramassé les cheveux. Puis là, en les enlevant par mettant les hélices, ça a l'air qu'ils ont des hélices qui ont des endroits spécifiques.
Yep.
Puis là, il tournait puis il l'empêchait de se lever. Fait qu'il faisait juste tilter sur un bord puis il restait à terre. Il avait l'air de moi qui se lève le matin pour aller travailler. Faire tout le trafic là, pour me rendre à la job. Là.
Les escaliers, 10-15 pas.
Comment dit, never go full retard.
C'est ça. Ça fait longtemps que j'ai manqué ma chance. Bon.
Fait qu'expert soudeur sur mon CV. Expert soudeur sur le CV directement. Skills. Je casse vos cues.
On se croit qu'on est capable tout seul. Alors, cette semaine, dans l'actualité, on commence avec une histoire qui comprend tous les éléments pour me faire plaisir. Du monde épais, des fausses chaînes de nouvelles sur Facebook et des gifs animés. Ça va comme suit.
Yeah.
Ouais, Dan, merci.
Le
20 juillet dernier, la page Facebook très réputable Newsfeed Pro.
Oh!
Diffusant en direct.
Le pro, c'est parce qu'il faut que tu payes 2,49 par mois pour y avoir accès.
D'après moi, ils font plus d'argent que ça avec ça.
C'est un Newsfeed, mais quand t'as le pro, t'enlèves les pubs.
Hein?
Il n'y a plus rien, tu
l'as.
Alors, ils ont fait une diffusion directe, via Facebook Live d'une tornade. Mais comme l'intro à cette nouvelle l'indique, cette tornade en direct était en fait un GIF animé qui a joué en boucle pendant 4 heures, la limite pour un Facebook Live, et a cumulé près de 17 millions de views.
Ben non.
Aïe, aïe.
Le GIF dure quelque chose comme 3 secondes, anyway, là. On peut clairement voir le moment où l'effet fait comme un fade pour recommencer au début, là. Mais pourtant, plein de commentaires indiquent que des gens y croyaient vraiment, là. C'est sûrement des lecteurs de santé-nutrition.org. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter, là. Les internes web sont toujours peuplés de crosseurs et de monde stupide. Donc, j'aimerais remercier tout le monde d'avoir laisser l'autoroute de l'information dans le même état qu'avant qu'on parte en pause. Tout est safe.
Si peur que ça.
Il n'y a rien qui a bougé. Ensuite, parce que ça suffit. Mais en fait, au passage, une petite mention honorable pour Gizmodo, qui nous a offert un article magnifique le 7 août dernier intitulé « You don't need desktop apps anymore », où il nous présentait plein d'applications web et ou cloud pour remplacer vos logiciels. Ben, tu sais, là, tous vos logiciels pour éditer des documents textes, gérer vos photos, faire jouer de la musique. Tu sais, parce qu'il n'y a personne qui travaille avec son ordinateur, là. Belle hostie d'article de tata, là.
T'as-tu checké l'année de son article, là? C'était...
Comment?
C'était-tu 92, l'article, ou c'était...
Non, c'était 7 août, ben, j'ai présumé 2017. Ah.
Mais quand il a commencé l'article, ça commençait comme ça, je pense.
Check a look.
Check a look.
De la présentation de Robert, bien sûr.
J'ai reconnu.
Bon, en tout cas, on continue. Ensuite, à la fin du mois dernier, une investigation visant le premier ministre du Pakistan, Nawaz Sharif, prenait fin de façon assez surprenante, comme l'épisode le plus fucking geeky de CSI de tous les temps. Monsieur Sharif était sous enquête suite à la fuite des fameux Panama Papers, là, le hack qui a fait sortir 11,5 millions de documents incriminant des gens riches et influents un peu partout dans le monde, dans lesquels se trouvait évidemment Monsieur Sharif. En bout de ligne, le document ayant mené à sa perte n'était pas dans cette fuite, mais a été publié directement par la fille de Monsieur Sharif sur Twitter. Le document, qui semblait officiel, indiquait la date de 2006. Bon, ce qui prouvait le point qu'elle avançait, là, sans rentrer dans les détails. Mais le document a été écrit avec la police de caractère Calibri. Mais la police de caractère a été rendue disponible au public en 2007.
Oh.
Alors, on peut maintenant dire que le Pakistan est sans Sharif.
Oh.
Oh.
Je pense que je vais quitter le plateau tout de suite.
Fait que, ben, finalement, je vais passer à l'annonce d'un jeu à venir... comme une nouvelle. Habituellement, on fait pas ça, mais là, il s'agit du jeu qui s'appelle Comedy Night, qui finalement est pas tellement un jeu qu'une espèce de chatroom qui permet aux joueurs de prendre le rôle soit d'un humoriste dans un open mic ou d'un membre de l'audience. Bon, à part mon évident scepticisme que le monde des internets web soit capable de faire autre chose que de se... que de faire chier, s'ils sont dans les films, finalement, là. Ça me semble une excellente place pour trouver du monde qui vont apprécier mes jokes de Pakistan sans Sharif, là. Puis de VJ Music Plus, là. En tout cas, au minimum, au pire, ça sera une bonne place pour que Dan utilise son drop de Peter McLeod, là.
Applaudis, toi! Ah ouais, c'est une niaiseur! Bon.
Ben oui, après tout ce temps, vous savez probablement plus ce qui s'en vient dans votre univers geek.
Ils ont sûrement rien été capable d'acheter depuis un mois parce qu'on n'était pas là.
Ben, on avait annoncé 5 choses, là. Ils ont quelque chose
sur ceux-là. Consommer ça.
Consommer datit.
Ouais.
Donc, ben oui, du 14 au 27 août, il y a quand même quelques sorties qui s'en viennent. C'est un petit spécial télé. Je pense que c'est possible. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui sort d'intéressant que de la télé dans les prochaines semaines. Fait qu'on y va avec ça.
Let's go.
Le 18 août. Bon, c'est pas super, je le sais, là, mais c'était pas évident de faire quelque chose avec ce que j'avais sans tout vous dire. Voici l'histoire de quatre personnages ne pèsent que des problèmes personnels. Vous comprendrez le pouvoir quand ils sont en colère. Ouais. J'ai pas non plus vraiment d'indice audio, là, fait que...
En fait, excuse, Jeff, est-ce que tu... Jeff Comp, est-ce que tu étais au courant de notre fonction du Google Blender sur le show?
Non, ça, je l'ai marqué.
OK, on prend des... En fait, dans le cas-ci, c'est les sorties à venir.
Ouais.
Et on les passe à travers Google Translate dans plein de langues plusieurs fois.
Ah!
Et c'est ce qui nous...
Je connais que ça donne quelque chose d'un peu weird, puis des fois un peu drôle.
Puis là, faut trouver c'est quoi?
C'est ça.
On va comprendre ce qu'il y en est.
Alors, je pense que je sais.
Tu peux répéter? Ben... Pour les besoins de la cause.
On répète.
Donc, voici l'histoire de quatre personnages ne pèsent que des problèmes personnels. Vous comprendrez le pouvoir quand ils sont en colère.
Je sais. Je pense que je sais. Ah, ben vas-y, je te laisse. Je dirais The Defenders.
Mais oui, mais.
Oh! Yes! Hey!
Mais je voulais quand même, au cas où. J'avais quand même préparé quelque chose au cas où que vous aviez pas d'idée, mais j'ai pas vraiment trouvé d'indice audio. Fait que je suis allé avec le nom du show, rime avec le nom de ce tune-là.
C'est un peu tiré par les cheveux.
Je suis en vacances. On y va pour le 19 août. Donc, j'y vois que la description directe, c'est court.
C'est correct, je le sais déjà, c'est quoi.
Ouais, c'est correct. Oui, tu le sais déjà. ces derniers temps, l'Internet, sans vérifier l'autre, est le navigateur d'établissement.
Je vais laisser M. Cron répondre.
Non, ben, je sais déjà, fait que je vais laisser la chance aux autres d'abord ou si je suis le seul qui répond.
Ah non, tu peux y aller.
C'est Halt and Catch Fire, très certainement.
Yes!
Ça. Voilà. Yes. Ah, ouais. Quel excellent thème. Je le mettrai partout cette année.
On peut le laisser rouler.
We'll be right back.
hâte.
Je me garde des fois que les thèmes, quand ils sont bons. Ah, j'ai...
Joe McMillan, maudit malade.
Ce que j'ai pas fait avec le thème de Wonder Woman l'autre fois.
C'est la version VR ou ça?
Non.
Non, c'est la version... Googlez pas Wonder Woman VR, c'est pour votre
en tout cas, pas au bureau.
Propre bien.
Not safe for work.
Tu fais quoi quand ton bureau c'est chez vous maintenant?
La ligne est mince.
Quand ton bureau chez vous, tu le googles.
En meeting.
Puis tu pars en pause.
Et voilà. Je termine ça le 25 août. Une école secondaire portable, école élève, traversera des centaines en reconnaissant que l'ancien centre du pouvoir, propriétaire du nom enregistré de la personne à nommer leur visage, où il va mourir.
Oh, oh, oh!
Oh, oui. Enivré avec cette nouvelle vision de Dieu, un jeune homme va dans le nez pour avoir tué un sauvage vie upwardly.
Ben, il s'agit forcément de Death Note.
Death Note.
Félicitations, mes yeux.
En fait, le film Netflix.
Ouais, c'est un film ou série, je sais pas.
Je crois film.
Je pense que c'est une série, il me semble.
On a cette rigueur-là, on vérifiera pour vous en reparle.
Ouais, c'est ça. Mais je vous donne quand même le drop audio qui va vous rester dans la tête beaucoup trop longtemps pour ce que c'est.
C'est effectivement un film.
Ah, ben désolé. Je vais me donner une punition, puis je vais me fouetter.
En direct?
Ouais.
On mérite pas! On mérite pas! On mérite pas! On est tout petit! On est à chier!
Alors, c'est le moment dans l'épisode, comprends, pour remercier ceux qui daignent bien nous donner un petit peu de minier pour couvrir... Pourquoi je parle de même? Pour couvrir nos dépenses. Alors, évidemment, on parle des gens qui nous aident sur Patreon. Comme vous avez pu remarquer, il y a 2 semaines, on a recommencé à reprendre de cash aux cartes de crédit. Après, vous avez sacré un break en juillet. Je tiens par contre à dire immédiatement qu'il y a des belles surprises qui s'en viennent pour les Patreons dans les prochaines semaines. On va rendre ça un peu plus explicite sur les médias sociaux et évidemment, on va leur donner une petite longueur d'avance à ceux qui sont déjà Patreon d'avoir accès à tout ça.
Vous aurez plein de belles opportunités.
Oui, ouais.
D'opportunités. De...
Ça fait ça un mois de pause. Hein? Tu as des ACV pendant ce temps-là.
En tout cas, ça vous donnera aux Patreon les opportunités de rire de nous un peu plus.
Si ça vaut pas une pièce.
Ça vaut au moins une pièce. Alors, aujourd'hui, dans l'univers de Divon Quest, on est le 14 août. Je commence en 1888. Le phonographe Edison est présenté lors d'une conférence de presse à Londres. On y fait jouer un des premiers enregistrements musicaux. J'ai ici un drop de cet enregistrement.
La baisse était bonne, pareil.
Pas pire, hein, c'est le chrono.
J'aurais pensé que c'était la version.
C'est tellement mieux le son dans ce son-là, dans ce temps-là.
Ah, j'aimerais ça que vous pouvez entendre tout avec des gramophones, comme dans le temps.
Ben écoute...
C'est désagréable.
Pour les intéressés, il y a des générateurs de sons de grichage. Ouais.
On aurait dû passer la version du VanQuest, Nostalgia Piano.
Nostalgia Piano, ça aurait été bon, hein? Ouais. J'ai pas pensé.
Mais bon.
Hein? C'est... Ça fait longtemps.
Commence à faire un bout.
Genre à peu près aussi longtemps, en 1900. c'est la fin de la révolte des boxeurs pendant, dans le fond, qui vont rendre le port de la bobette obligatoire. Non, c'est un mouvement de révolte.
Du chien ou du sport, puis là, il parle des culottes.
Mais c'est ni le chien ni le sport non plus. C'était un mouvement de révolte en Chine qui avait ce nom-là parce que leur emblème, c'était un point.
Ah, ben oui.
C'est ça.
On apprend tellement d'affaires avec Dan. Des fois même, c'est intéressant. Continue, Dan.
Oui, 1952, première utilisation de l'expression « tiers-monde » pour désigner les pays les moins avancés. C'est considéré plus obsolète maintenant. On préfère l'expression « pays développé » comme un gag de Divan Quest. Ouais, c'est pas parce qu'on est en vacances que je deviens meilleur.
Je dirais pays préparé, c'est les gags un peu. Il savait à date qu'on revenait.
Ouais, c'est ça. Excusez. 1989?
Ben oui.
Lancement aux États-Unis de la console Genesis. On a ici un extrait d'un reportage qui aide pas tellement la vente des Genesis.
Now Sega has introduced Genesis, a revolutionary 16-bit system that improves gameplay opportunities, graphics, memory and sound.
Alors, pour tous les fans du FM Synth, du Genesis, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse.
Ouais, c'est ça. La même date, hein, toujours la même journée, le lancement du jeu Altered Beast.
Oh, sac.
Sur Genesis. Je referais jouer le son de tantôt, là, mais je pense que vos tympans saignent encore un peu. Fait que je vais.
Ah, t'as même pas le Rise from the Grave ou l'approximation du Genesis. ça, là. Ben, Akbar, là.
Ouais,
c'est ça, je pense.
1985, 95 plutôt, oui, ouais. Sorti d'une bunch de jeux pour une console particulière, mettons, qui va sortir deux jours plus tard. On parle de Mario Tennis, de Red Alarm, de Galactic Pinball, puis de Telero Boxer pour le Virtual Boy.
Ah, oh, cool! It came from the third dimension, with its own brain, its own voice, its own legs. There's only one problem. It needs your eyes. Virtual Boy, see it now in 3D. J'ai passé par deux phases pendant ça. J'étais comme, ah, oh, c'est une annonce, c'est vraiment ridicule. Ah, oh, c'est une parodie, là. Ah non, c'est une annonce.
Mais je trouve ça quand même très drôle, puis j'ai reconfirmé en tout cas en regardant une deuxième place, là, fait qu'on s'entend que c'est pas... Mais il y a des jeux qui sont sortis deux jours avant que la console sorte.
Bon, écoute, tu pouvais les acheter, puis... Non, mais c'est pour ceux qui veulent pas avoir des boîtes endommagées parce qu'ils ont commandé sur Amazon, puis que...
c'est drôle.
À tous les collectionneurs d'Amiibo. Commande pas sur Amazon, Asti, c'est un carton, câlisse, il va arriver pété. En tout cas, oui!
Happy birthday to you.
Naissance en 1926 d'un homme qui aura touché nos imaginaires d'enfants et d'adolescents pas mal à tous, je pense, M. René Goscinny.
Ah, je pensais que c'était Jean-François Harrison.
Non, non. Nos imaginaires, on a dit.
Ah, ok, excusez.
Il n'a pas dit d'autre chose. Donc oui, M. René Goscinny, scénariste de BD, l'a connu beaucoup pour Astérix. 1945, naissance de l'acteur américain qui me fait généralement beaucoup rire, M. Steve Martin. On lui souhaite bonne fête.
Bonne fête. C'est la première fois qu'on souhaite bonne fête à quelqu'un.
Yay. 1959, naissance de l'Américain Irvin Johnson Jr., qu'on connaît plus sous le nom de Magic.
Oh!
Oh!
Oui, Magic.
Respect.
Hey, c'est comme, hey, une référence au sport.
sinon, 1966, naissance de l'actrice américaine, oui, qui joue dans un des films où le hacking est le plus ridiculement démontré. Je parle de Madame Halle Berry là, dans le film Swordfish. La réaction est parfaite. Elle aura aujourd'hui 51 ans.
Ouais.
Quand même.
Oh, ouais.
Ça fait si longtemps que je me touche.
naissance.
Ben oui, en tout cas.
Ouais, 1981, naissance d'un des lutteurs les plus décorés de la WWE. It's a new day. Yes, it is. Monsieur Kofi Kingston.
Depuis que Dan a trouvé la fonction de faire des docking, dont ça partie des tunes de lutteur puis commencer à parler par-dessus.
Ça fait comme la deuxième fois que ça arrive.
Ouais, mais en deux épisodes, non, trois épisodes peut-être.
Il y a eu un mois là, de vacances. Hein.
C'était qui? J'ai comme pas vraiment écouté.
Kofi Kingston.
Kofi Kingston, ouais.
Un tiers des New Day. Une équipe de merde. Statement.
C'est vrai. Voilà. On va vous laisser parler ensemble, messieurs.
Ouais. Non, mais il y a un t-shirt de Finn Balor de la NXT, fait que j'ai respect. 100%.
Merci. Ben, j'ai pas autant de pognon sur les New Day, à part que j'ai trouvé très drôle.
C'est là que ça s'arrête.
C'est ça.
Ah, je suis sûr que c'était vraiment un statement controversé. On va recevoir plein de courriels là-dessus.
Ouais. 1983. Naissance d'une actrice connue par tous les adolescents qui jouaient à WoW dans les débuts du jeu. Pas parce qu'elle jouait des voix ou rien de ça, parce qu'elle avait dit qu'elle jouait à WoW. Fait que Madame Mila Kunis. Voilà.
Ah ben.
Qui fête ses 34 ans aujourd'hui.
The Kunis.
The Kunis.
Puis je termine avec une pour vous deux, là, Mathieu, Jeff.
Oui.
85, défenseur du Canadien de Montréal, M. Shea Weber.
Oh! Oh, ah ouais! Ça va être à Shea lundi.
C'est ça.
Ouais, c'est pas qu'il se repose, faut qu'il soit en forme.
Ouais, c'est important, on compte sur lui et sa grosse barbe.
Sweet. Je finis avec mon dicton.
Parce que c'est important. Donc, j'avais hâte.
C'est le moment qu'on attend à chaque épisode.
Écoute, pendant le mot au complet, si vous le savez pas, j'écrivais à Dan, j'étais comme Dan, t'as-tu un dicton? T'as-tu. Voici.
j'ai honte d'un coup. Là.
Non, mais tu devrais.
oui, ben, à Saint-Eusèbe, un temps sec grossit la gerbe.
Tabarnak. Tabarnak, ça veut rien dire.
Ben. Blade of Steel.
On a un qui est pas habitué. Alors, pour moi, cette semaine, en guise de segment, ben, je me suis dit, pourquoi préparer des choses quand tu peux simplement inviter du monde puis les laisser parler? Non,
cheap labor.
Exactement. T'es fait descendre de la grande ville, non, même pas de la rive sud, pour qu'ils parlent de VR.
Yes.
Ben oui, ben, comme je vous ai, en fait, comme vous tous, je vous ai mentionné depuis quelques mois, j'ai recommencé beaucoup à jouer au VR à cause que, justement, M. Chrome, c'est procurer un HTC Vive.
Ouais, mais tu m'as coûté cher.
Ça arrive. Depuis ce temps-là, ben, j'ai commencé à jouer à des jeux en VR, mais surtout les jeux coop que j'avais pas vraiment approché parce que ben, j'étais tout seul dans mon monde de gens qui dépensent beaucoup trop d'argent pour faire du VR.
Entouré d'enfants de 4 ans. Puis...
mais c'est fini ce temps-là.
Ben oui, parce que GF... Parce que là,
on est trois qui vont faire du VR.
Ah, ben excellent, ça.
Salut, Dan.
Je lui ai dit, je vais m'en sortir dans le coin de ton salon puis je vais me toucher.
Déguisé en Superman. OK, c'est ça.
Fréquemment.
Ça l'aide mon imagination de savoir ça. Bref, donc c'est ça, on a commencé à jouer à des jeux coop justement parce que j'avais un partner avec qui jouer, puis ça a vraiment comme renoué mon intérêt dans le VR. Fait que puis comme lui-même en a parlé un peu sur Rétro Nouveau.
Ouais.
Et en fait, il y a maintenant un segment.
Oui, c'est mon segment, GF pris dans le VR.
Ça représente bien.
C'est pas mal ça, oui.
Oui, c'est ça, voilà. Que t'as malheureusement pas encore causé d'accident majeur à ton mobilier.
Non, mais c'est pour ça que je stream, en fait, les parties VR, parce que j'espère, à un moment donné, qu'il y a un étageur qui va me tomber dessus. Imagine le rating, si il me tombe dessus pendant que j'ai un casque à la tête, ce serait malade, là.
C'est un moment excessivement peu radiophonique, mais GF, si tu regardes à côté de toi, sur le mur, là, il y a deux coches dans le Jibra.
C'est
deux des premières expériences de VR qui ont eu lieu ici.
Non, mais qui ont été conservées malgré la nouvelle couche de peinture.
Exact. T'as pas question de refaire de la potée par-dessus ça. On garde.
De toute façon, c'est un moment d'histoire.
Ouais, ouais. Fait que bref, c'est ça. Fait que dans les jeux coop en VR, donc, on en a parlé brièvement, mais c'est sûr que le jeu que je tiens le plus à ce qu'on parle ici, right now, c'est forcément Rec Room,
j'imagine, ouais.
Parce que c'est un jeu que j'avais déjà apprécié à jouer tout seul. Je trouvais ça intéressant, toute la palette d'expériences que ça donnait. Mais quand tu tombes avec un partner, avec quelqu'un avec qui tu peux aller jouer, ça change beaucoup comment t'approches ces jeux-là.
Parce que si tu vas jouer avec n'importe qui, c'est le fun, tu sais, mais la personne avec qui tu joues, c'est pas nécessairement le jeu. Tu veux pas nécessairement collaborer, tu veux peut-être même pas avoir de casse à la tête avec des, un micro et un headset. Fait que tu sais pas avec qui tu joues. Puis avec qui tu joues, c'est bien important en VR. Puis honnêtement, avant de commencer en VR, je pensais pas que c'était rendu au point qu'il y avait du multi-live comme ça en VR qui se faisait, puis que pas de latence, pas rien, puis let's go, puis on est capable de streamer, puis d'être en... T'sais, on stream à deux, on est en Skype, on est sur le net, puis il y a pas de lag, il y a pas rien dans le jeu, là. Tout est parfait.
Mm-hmm. Ça a l'air plus facile qu'enregistrer un podcast.
Bizarrement.
Mais il y a rien, il y a aucun système dans Rec Room pour la communication? Pour...
Oui.
Le système de base, en fait, là, du jeu... sans passer par un TeamSpeak, mettons, ou un Skype à côté, il y a un système built-in, puis tu peux te mettre private si je pense que tu peux faire des groupes.
Il y a quand même une des belles choses de Rec Room, c'est que c'est une série de jeux. Puis ça leur permet aussi d'avoir une plateforme unifiée en arrière de tout ça. Donc, ils ont un système de liste d'amis, ils ont un système de... En fait, ils sont en train d'intégrer un système de messagerie. Il y a des systèmes pour bloquer les utilisateurs, il y a des systèmes pour savoir où sont tes amis dans ta liste, etc. Donc, il y a quand même une infrastructure qui est robuste, qui fait que tous les modes de jeu qui rentrent, ben, évidemment, profitent de ce système-là. Puis c'est ce qui fait que c'est solide. On sait que la base de l'interaction est bien faite. Tu transposes ça dans peu importe le jeu que tu veux, ça continue à bien marcher.
Mais pour ceux qui ne connaissent pas,
c'est un gymnase d'école, mettons, là. C'est Rec Room, fait, salle de récréation, puis tu as toutes sortes de petites mini-games, puis là, après ça, des jeux un peu plus gros, comme il y a un jeu qu'on joue, le nom m'échappe. Rise of the Jumbotron. C'est un genre de jeu de Laser Quest, puis tout est gimmicky un peu école, là-dedans. Il y a des casiers d'école un peu en background. T'as les bonhommes qui viennent te tuer, c'est des robots, mais c'est des... C'est des CRT, c'est des roulettes qui se promènent pour tes tirs.
Avec les plugs RCA en arrière.
Le souci du détail, mais c'est ça. Dans le fond, c'est comme si t'es dans une grande école puis tu fais jouer à ce que tu voulais avec du monde qui sont là. Fait que tu commences dans ton propre local, en fait, tout seul. Puis tu vas passer dans un lobby. Puis là, t'as plein de monde avec qui tu peux joindre ou tu fist-bump tes amis.
Ouais, pour
faire
groupes,
un party. Ouais. Hey, fist bump. Puis c'est un peu weird aussi quand tu joues puis que tu meurs pour te reviver. Faut que tu fasses des high five. Mais là, tu fais des high five en virtuel, mais ça marche. C'est un peu space.
tu le sais de quoi t'as l'air chez vous pendant que ça a lieu.
Mais là, tu le sais encore plus quand tu stream parce que tu regardes. Waouh, quel imbécile.
Ça m'arrive souvent juste en m'écoutant. Mais dans les activités, c'est ça, il y a Rise of the Jumbotron qu'on a fait plusieurs fois.
Genre de jeu de Laser Quest, c'est ça, le.
Exact. Et puis il y en a une version médiévale, en fait, qui est Quest for the Golden Trophy. Mais tous ces jeux-là, en fait, comme je disais, c'est une thématique d'école. Tout a l'air d'avoir lieu dans l'école. Mais c'est vraiment tout présenté sous l'idée que c'est la troupe de théâtre qui organise comme des activités interactives. Ce qui fait que dans la version médiévale, ben, les orques sont en fait des chaudières de concierges qui se promènent de façon semi-autonome. Donc ça, tout est très, très bien thémé. Et tout ça est family-friendly. Ça a par contre le défaut qu'il y a beaucoup d'enfants, vu que c'est effectivement un jeu qui est gratuit. En fait, je pense que c'est le comble que ça soit gratuit parce que l'expérience est vraiment excellente. Mais ça fait qu'il y a beaucoup de gens... En fait, je croyais pas qu'il y avait autant de gens qui laissaient leur kid.
Ouais, mais c'est ça. En très bas âge, parce que des fois, tu regardes le monde passer, puis c'est-tu des nains? Ou c'est des enfants? Parce qu'ils sont vraiment petits, là.
Mais beaucoup de nains qui aiment le VR.
Mais ouais. Moi, ça, c'est vraiment intéressant, parce que tu joues à Call of Duty avec un kid ou un adulte, tu le sais pas. Je veux dire, tout le monde est pareil, mais là, le casque de VR est à la hauteur du personnage.
Exact.
C'est un aparté, là. Mais dans un jeu qui n'est pas VR, parce que j'ai vu GF faire Virtual Reality sur son
oui,
stream.
Oui, oui, oui.
Le jeu de Rick and Morty que j'ai fait un peu avant.
Ouais, faut que je l'essaie.
Puis j'ai... Moi, j'ai jamais été capable de fouiller ces tablettes en haut de l'étagère. Là.
Non! T'es trop petit.
Je mesure 5 et 6, là, je me rendais pas. Puis là, je voyais GF fouiller complètement en haut comme si rien n'était. Puis c'est ça, c'est une des réalités du VR, là, que si le jeu a le choix, en fait, soit qu'il scale tout l'environnement aux joueurs dans une expérience single player, ou ben deal avec les limitations, tu sais. Puis la plupart des jeux en fait offrent des solutions intéressantes à ces problèmes-là si c'est des problèmes. T'sais. Il y avait, je suis sûr que j'en ai déjà parlé ici là, mais Vanishing Realm qui est un espèce d'RPG. Bon, tu dois te battre contre des ennemis mais bouclier épée. Ben moi mon approche en tant que quelqu'un de plus petit c'est que j'attends qu'il donne une ouverture. Mais quelqu'un de plus grand peut passer par-dessus le bouclier de l'ennemi.
Ouais, donc, on avait parlé. Ouais.
Bon, c'est ça, l'approche est forcément différente, puis c'est pas quelque chose qu'on a eu à dealer avec dans aucun jeu. En tout cas, pas avec ce niveau de simplicité-là, finalement. Là. Mais pour revenir à Rec Room, en dehors des expériences coopératives, comme les deux qu'on a décrites, il y a tous les jeux qui sont multijoueurs. Puis en fait, c'est ça la viande de Rec Room, en fait. Il y a un jeu de paintball qui est très, très bien construit. Il y a du ballon chasseur. Il y a du shield soccer, qui est comme une espèce de jeu de soccer, mais on doit pousser le ballon avec un accessoire, là, qui est un bouclier, et plein d'autres. Je commencerai pas à
dire. Golf, là, aussi, tu peux jouer.
Oui, c'est vrai. Tu peux jouer, ils ont rentré, je pense, à deux joueurs, là, pour faire des espèces de Ultimate Frisbee. Il y a un petit peu de tout ça. Ben, c'est ça, c'est toutes des variantes, des mécaniques qu'ils ont. C'est une des belles choses qu'ils ont, justement, de pouvoir facilement modifier tous les outils qu'ils ont pour faire d'autres genres de jeux. C'est juste de mettre les règles dans toutes ces interactions-là.
C'est probablement la meilleure expérience que j'ai eue en multi, en VR, à part peut-être Star Trek Bridge Crew, qui est simplement incroyable comme jeu à jouer, encore une fois, avec des amis, parce que je l'ai fait avec des étrangers. C'était moyen. Parce que le fun, c'est de communiquer et de voir comment les autres ont de l'iPad. Puis surtout dans Star Trek VR, c'est incroyable, parce que là, maintenant, ils ont commencé à faire le crossover PlayStation ordi. Fait que là, les tout se mêle. Fait que nous autres, on joue avec un autre collègue, Ellie, qui lui est en PlayStation VR, nous deux sur HTC Vive. Puis on peut jouer tout le monde ensemble en VR. Fait que c'est fantastique. Puis je sais pas si vous avez vu le jeu-là un peu comment ça marche. T'en as un qui est capitaine, qui donne des ordres aux autres, mais personne n'a le même écran. Puis t'as plein de pitons de couleurs. Puis tu pèses, t'as de la cave. Puis t'as des bras mous. Puis tu fais juste. Moi, un jeu que t'as des bras en partant, je trouve ça malade. Je trouve que c'est encore next level. Là. Tu vois tes mains normalement, là, tu vois tes bras. Fait que là, tu peux avoir vraiment, comme je disais, des bras mous.
Puis... C'est clair. Ça, c'est le jeu qui me donne le goût de dropper 1000$.
Ah, c'est fou, raide, là.
J'avais vu des threads sur Steam qui me faisaient tellement rire. Du monde qui était juste comme pissed off que le jeu n'existe pas VR. T'sais. C'est comme, tant que tu l'as pas essayé en VR, t'as pas compris pourquoi le jeu il est juste
ouais,
VR.
Ouais, non, c'est ça. Tu sais pas de quoi ça parle.
Exact.
Mais là, je vais poser la question. Là, je vais faire le gars exclu qui va poser la question.
Yes.
On sait qu'on dit que Bridge Crew, ça se fait cross-platform entre les trois console ouais. principale, là, les trois plateformes principales de VR. Est-ce que Rec Room, c'est cross-platform entre les consoles, entre les versions?
Entre les deux entre la casque Oculus. VR, yes.
Tu as besoin du 360, donc...
Rec Room te permet de faire la rotation.
Ah, ouais, ah oui, c'est vrai.
Rec Room est très... Encore une fois, sérieux, j'ai l'air de trop vendre de produits, mais il est vraiment bien adapté. Il y a plein de petits détails. Il y a plein de petits détails qui rendent l'accessibilité intéressante pour tout type d'interface ou limite d'environnement. Ce qui fait que oui, il marche très très bien sur Oculus, même pour des setups qui ne sont pas 360 degrés.
Donc, il faut le troisième...
Obligatoire, mais sans le troisième sensor du Oculus, c'est pas fiable de faire du
360. Tu peux tourner en 360 en tenant tes manettes, puis juste en bougeant tes bras, mettons d'un bord puis de l'autre, il va swinguer comme si tu tournais. Là.
Okay. C'est vraiment genre, tu squeezes les grips, puis c'est comme si tu tirais l'environnement autour de toi. Fait que c'est un pour c'est un, ça cause pas de mal de cœur, puis c'est vraiment un bon système pour pallier à cette limitation-là. Mais Star Trek, Bromou.
Bromou tout pour
Bromou crew,
ouais, on appelle carrément Bromou. Juste ça le... Bromou. On joue tout au Bromou.
Nos blondes sont super contents
quand on l'accepte.
Anyway, ils sont tellement fiers le reste du temps.
Ouais, non, moi je me fais pas filmer du tout chez nous en train de jouer à ça sans le savoir. Regarde toutes les photos et les vidéos que j'ai pris de toi qui a l'air cave. Ben merci.
Ouais, mais ça c'est un peu le. En fait, en général, c'est le privilège. Non, mais c'est le privilège de la personne qui achète un casque de VR de pouvoir ridiculiser tout le monde qui vient jouer chez eux en le filmant.
Effectivement.
Ouais. Hey, on a effectivement une vidéo sur notre feed Facebook de moi qui fait quelque chose qui ressemble à ça. Là. Ouais, qui fait piou-piou, Carlis.
Cherchait son drop de piou-piou. Non, c'est en fait, c'est parce que c'est un drop de toi qui le fait. Tu peux juste le faire.
Piou-piou-piou-piou.
Bon, ok, ouais, fine.
Je suis pas sûr. Tu peux faire celle-là.
C'est un univers, l'audio du VanQuest, GF. Hein, tu...
Je me suis oublié de mon soundboard. C'est un peu comme l'univers de Rec Room, tu sais, des boucaquets dans la face des enfants. Puis...
Non, on peut pas parce que je perds ma vie.
Non, mais excuse, c'est le craquet de clown, faut préciser. Il y a des gars à la confetti, puis des fois on s'amuse. Des petits fatigants, paf, attendez là.
C'est vraiment un jeu pour toute la famille, ouais. Et ainsi que les mononcles cochons.
Ben, c'est toute la famille.
Et voilà.
On a eu une belle expérience. Au fond, on a croisé un Français de France qui venait de l'acheter, puis il a joué avec nous autres, puis c'était cool, pour vrai.
Ouais, c'est une de mes rares bonnes interactions.
Ouais, moi aussi, c'est pas arrivé souvent que j'ai poigné des Français, mais du monde en VR, random.
Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est exact, ça, je voulais dire.
Vous coupez de l'auditoire en France, là.
Ouais, excusez. Mais non, c'est vrai, on a eu des... En fait, c'est arrivé quand même plus souvent que sur Rec Room, on a croisé des quelques Québécois de passage là, qui étaient occupés, tu sais, parce que c'était important, il y avait des places où aller en Rec Room. mais c'est... probablement biokaki, un enfant avec un gars de confetti. Mais...
Toujours.
Mais non, c'est ça, il y a vraiment... C'est vraiment fou à quel point il y a du monde de partout dans le monde. Quelle phrase dégueulasse. Mais il y avait des gens de partout dans le monde sur Rec Room. Puis justement, le fait que le jeu soit gratuit, ça fait que c'est une bonne place pour commencer quand tu viens d'acheter. Tu sais, tu viens de dépenser 100$, avoir un vibe chez vous. T'es comme, bon, j'ai pas une esthéticienne. Hey, Rec Room, c'est gratis. Puis c'est une des bonnes expériences en plus.
Puis, avec des gens de partout dans le monde, je suppose que ça fait pas nécessairement des gens qui parlent français ou anglais.
J'en ai jamais croisé qui parlaient pas un ou l'autre.
J'ai joué des anglais ou des français, moi aussi. C'est...
Je sais pas si le monde d'emblée parle en anglais pour faciliter la communication, mais j'ai pas l'impression qu'il y a des limites de région parce qu'il n'y a pas tant de joueurs, mais ils doivent essayer quand même de les regrouper quand ils se trouvent là.
Parce que sinon, n'importe qui que tu fist-bomb devient dans ton party. Puis là, tu peux chatter avec ou tu peux chatter avec tout le monde?
Mais tu peux chatter avec tout le monde dans le lobby. Tout le monde s'entend. C'est comme si c'est dans vraiment ici en ce moment, on se parle, mais si je suis à côté, moi, t'entends à droite, c'est à droite. Mettons,
avec la proximité.
Puis le lobby, dans le fond, est instancé. T'as jamais plus que 8 personnes, je pense, dans le lobby.
Ouais,
à moins que t'ailles rejoindre quelqu'un que tu connais. Parce que dans le fond, l'idée du party, c'est surtout ça, c'est que tu peux inviter le monde dans ton party à te rejoindre ou tu peux suivre quelqu'un qui est dans ton party qui s'en va ailleurs. Mm. Bref, ça facilite là, de regrouper le monde pour jouer ensemble.
Tout le temps un creep dans le lobby qui veut nous violer aussi. Là,
Tout le temps
un gars weird là, qui fait des commentaires pas de classe. Là.
Mais Rec Room a justement
Tu peux les reporter, fait que c'est cool ça.
Puis il y a une fonction par la main. Si tu présentes ta main face à quelqu'un, ça va te demander après quelques secondes si tu veux le bloquer puis le reporter. Comme ça, ça limite le harcèlement. Puis le jeu aussi, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont mis dans ces jeux sociaux-là, parce que c'est une question qui a été levée très tôt sur la gestion du harcèlement puis de l'espace privé, parce qu'il y a quand même l'idée de présence virtuelle. Puis dans Rec Room, il y a une proximité de sécurité. Ce qui fait que si quelqu'un arrive en dedans de telle distance de toi, il disparaît. Que tu peux activer ou désactiver, mais par défaut, si je ne me trompe pas, est activé. Ce qui fait que personne ne peut rentrer dans ta bulle que tu ne veux pas. Voilà, ça mitige des situations qui pourraient être compliquées. voilà, même si c'est virtuel. Mais pour revenir à un sujet beaucoup moins plat, pour revenir à Star Trek, on n'a pas vraiment décrit, là, fait que pour ceux qui...
Ouais, on a juste parlé, vous avez juste parlé des bromous à date. Là.
Mais c'est, bon, c'est trois quarts du jour.
Ça fait le tour.
Regarder quelqu'un faire des bromous. Ou, non, c'est vraiment intéressant parce que le jeu repose beaucoup, beaucoup sur la communication. Puis on n'est pas dans une interface qui facilite autre chose que la communication naturelle. Il n'y a pas de chat de clavier puis tout, c'est de vive voix puis avec tes bras mous. C'est comme ça que tu communiques. Fait que tu peux pointer un endroit mollement. En fait, s'il y a un argument pour pas acheter un PlayStation VR.
Ouais. Tu peux pas pointer.
Ah, parce que t'as pas
un piton. Fait que tu peux juste avoir la main droite, mais tu peux pas avoir le doigt.
Tu peux ouvrir la main au complet, fait que tu peux faire 5, mais tu peux pas faire 1 en pointant. Fait que tu peux pas compter finalement. C'est impertinent. Mais c'est ça. Donc, c'est un jeu qui est vraiment très, très coopératif. Tout le monde a des rôles très différents. Puis, il demande la participation de tout le monde. Je crois honnêtement que ce jeu-là, pas en VR, serait très difficile à faire fonctionner. En dehors de Artemis, qui demande que tout le monde ait un ordinateur. Genre, qui est un. Ouais.
Mais je trouve bien que tu dis que ça l'amène la participation de tout le monde parce que c'est une de mes craintes qu'il y ait un officier scientifique qui veut juste klaxonner.
T'avais une flashlight, là?
On se rappellera GF et ses aventures dans Affordable Space Adventures.
Oui, notre seul divan coop à trois.
On s'appelle Divan Quest, on n'a pas de divan.
Puis on n'a pas de quest.
Puis on joue pas sur des divans. C'est compliqué, cette histoire-là. Fait qu'est-ce que tu as un autre point que tu souhaiterais apporter, M. Cromp? Moi, je pense que j'ai fait le tour de...
Ouais, moi aussi, pour ce qui est du multi, c'est pas mal ça.
C'est facilement nos deux meilleures expériences, mais puis on n'a pas fini des explorer non plus.
Non, puis il faut finir aussi Rise of the Jumbotron bientôt. Là. On approche. C'est un jeu qui est fait pour être 4, on joue à 2, fait que c'est pas facile. On s'en vient pas pire. Allez voir sur ma chaîne Twitch, la vidéo 2 caves dans l'espace. Un 2 minutes excellent.
Réflexion sur le VR.
Hey,
on va rester dans le thème quand même.
Ça, c'est une transition.
On en parle beaucoup aujourd'hui. On en parle beaucoup de façon générale. C'est quelque chose, un sujet qui est quand même récurrent.
Sporadique, ouais.
Sporadique. Mais ça serait intéressant de se demander, on en est rendu où avec ça? Parce que je pense que c'est rendu une connaissance populaire.
Check ton compte de Visa, ça va te le dire.
Au sujet. Si je vais pas coucher dehors, on change de sujet. Fait que, je vais aller avec ça.
À caisse? Non, je sais pas.
Pardon, on en parle beaucoup.
Oui.
Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui est rendu connaissance populaire. Je pense que monsieur et madame tout le monde savent que c'est quelque chose qui existe puis quelque chose qui est abordable. En grande partie à cause de Sony, probablement, qui ont quand même assez popularisé et rendu accessible le produit à travers le PlayStation. Donc, rapidement, depuis 2013, parce que c'est en 2013 que ça a commencé, toute cette épopée-là. C'est en 2013 que Oculus a lancé le DevKit 1.
Mm-hmm.
Qui est original, conseil procuré d'ailleurs, Matt, moi puis toi,
oui.
Qui était notre première expérience de VR.
DK2.
Oui, donc 2014 d'abord.
Dans notre cas, oui.
Ouais, c'est vrai. Mais 2013, le DevKit 1,
oui.
Nous, c'est le DevKit 2, effectivement, qu'on avait ta raison. Que toi, tu as eu la chance de faire évoluer vers un HTC Vive, que moi, j'ai très récemment, donc ce matin, dans l'enregistrement, donc tout est dans sa boîte sur un coin de la table à la maison. J'ai pu migrer vers. L'Oculus Rift, en fait, je reste fidèle à mon expérience.
et à ton budget.
Oui. Puis, à part quelques, quelques incartades, on parle plus de mon budget, c'est fini. J'en ai plus de budget.
Rien à parler, mais oui.
Alors, à part quelques incartades avec le sure. Galaxy Gear, qui est quand même intéressant au niveau d'être portable pour surtout Netflix ou des expériences plus de vidéos. Mm-hmm. Quel niveau sur le raclement de gorge?
Vidéo, hein?
Oui, sûr. Sure.
J'ai flashé. Okay.
Oui.
Donc, ça a été on and off, mais on en a surtout parlé. Puis, sinon, j'ai eu l'occasion d'emprunter le headset plein de sueur de Mathieu.
Yes!
Fait que je me suis demandé, quand je savais qu'on allait avoir M. Cromp et qu'on allait parler de VR, je me suis dit, ça s'en va où le VR? T'sais, aujourd'hui, c'est un produit qui est. Bon, c'est rendu mainstream. Je pense que ça a fait ses preuves que c'est quelque chose qui était commercialisable dans une certaine mesure. Mais c'est quoi la suite? C'est quoi le futur? Donc, c'est sûr qu'on est à la première génération de ce que le VR est. Donc, c'est difficile de prévoir pour l'instant le modèle d'itération annuelle qui va être pris par les différentes compagnies. Ça va être plus proche des ordinateurs, plus proche des cellulaires. On ne sait pas encore. Mais il y a quand même des rumeurs. Il y a des choses qui ont été leakées sur Internet. Fait que je pense faire un petit tour rapide des différentes compagnies puis des rumeurs qui ont laissé paraître. Puis ça donne une belle vision, puis des fois assez intéressante, assez même excitante de ce qui risque de s'en venir pour cette nouvelle plateforme-là, finalement, qui est quand même assez début, on va se le dire.
Check excitant. A look.
Exactement. Fait qu'on commence avec Facebook, hein, mon meilleur ami depuis ce matin.
Tabarnak.
Dans une commandite.
Dire qu'il y a comme un mois et demi, il avait délimité son account.
Ben oui, mais. Hein? Ouais. All in.
Face, neck, and chest.
Face, neck, and chest. Donc, en fait, Facebook, ils ont déjà deux rumeurs principales qui traversent sur les internets web ces temps-ci. La première qui date depuis un certain bout de temps, qui est Santa Cruz, qui est le prochain headset officiel de la compagnie. Il y a beaucoup de discussions. On sait déjà que ça va fort probablement être un headset qui va être sans fil. C'est quand même un des sujets principaux là, présentement. On a TP-Cast qui ont fait un adapteur pour l'HTC Vive. Donc, on parle d'un headset qui risque d'être fort probablement sans fil. Puis, il y a même des rumeurs de ce qu'il appelle le SLAM, qui est la localisation simultanée, le mapping simultané qui permettrait un tracking en temps réel.
Qui ferait du tracking inside-out.
Inside-out, c'est ça. Donc, on n'aurait pas besoin des caméras ou des...
capteurs, caméras.
Capteurs, projecteurs, infrarouges, peu importe. Là. Mm-hmm. Donc, ça serait tout à l'intérieur même du headset. Donc,
Mais la technologie, par contre, de tracking inside out, est là. C'est le Microsoft le fait avec le HoloLens. C'est pas tout le monde qui a craqué la formule, mais ça existe, ça se vend, puis ça fonctionne.
Exactement. Donc, on n'a pas vraiment plus d'informations que ça sur Santa Cruz en ce moment, sinon que sans fil, probablement aussi, sans les caméras. Mm-hmm. Mais Facebook ont laissé... En fait, c'est Bloomberg qui a laissé échapper l'annonce. Il y aura un deuxième headset qui présentement s'appelle Pacific, qui viserait en fait des budgets plus modestes, qui cherche un marché plus abordable, puis on dit autour de 200$ US probablement pour le headset.
C'est cool ça.
Puis qui serait, la rumeur dit, on parle d'un 2018 pour ce headset-là. Il n'y a aucune date pour le Santa Cruz, mais donc 2018, headset de Facebook, Oculus, peu importe comment il s'appellera, mais qui serait une version plus légère. Peut-être, donc, peut-être qu'il y aurait toujours les caméras, peut-être que ça réutiliserait les technologies courantes du headset, qui sait, mais avec un budget de 200$. Si on va voir la compétition principale de Facebook, on s'en va chez... est-ce que c'est HTC ou Valve? C'est un peu ambigu, là.
C'est qui le compétiteur directement? Bien sûr que HTC ont leur produit à eux, basé sur la technologie de Valve, mais Valve commence à développer aussi des choses à eux.
C'est un peu une zone grise où c'est difficile de définir qui fait quoi, qui a l'ownership de quoi. Mm-hmm. Mais si on prend, disons... appelons-les HTC, Valve comme une entité commune. Là.
On dira la plateforme Steam VR. Là. Tout ce qui touche à Steam VR.
Donc, oui, j'ai perdu le fil. Donc, la plateforme Steam VR. Ouais. Tout ce qu'on sait, on en sait très, très peu sur la suite, sur la prochaine occurrence de ce casque-là. Sinon, son nom. La rumeur est que ça s'appellerait Oasis, en fait, donc qui est un clin d'œil probablement à Ready Player One et au monde virtuel de l'univers de Ernest Cline. Tout ce qu'on sait, c'est que les rumeurs parlent, qui ont été révélées, c'était quand même il y a longtemps, c'est des rumeurs qui datent de septembre l'année dernière, donc ça date longtemps en arrière, mais on parlait d'un prototype qui utiliserait une connexion sans fil à l'aide de Wi-Fi. Mais on n'en sait pas plus. Donc, on a encore un peu d'années.
Ce qui ressemblerait, par contre, à ce que TP-Cast fait.
Ouais.
Parce que le TP-Cast nécessite un routeur dédié pour faire son tracking, qui est fourni avec, là, bien sûr. Mais bref, c'est basically, c'est du Wi-Fi qui sert pour supplémenter certains de leur tracking. Là. mais en plus, du côté de Valve, on a le Knuckles Controller, que les kits de développement sont rendus dans les mains des...
Oui, mais j'en parle tantôt, en fait. Là, je me concentrais sur les casques, les headsets, mais on va parler des autres technologies connexes.
Pardon,
au VR, donc. Tantôt. Pas de problème. Y a, par exemple, ils ont annoncé, ou comme là dans les prochaines semaines, mois, ils ont parlé d'annoncer des adapteurs. J'oublie le nom exact, mais comme des écouteurs qui vont pouvoir être directement fixés sur le casque officiel d'HTC Vive.
Qui est déjà disponible.
Qui sont déjà disponibles.
Que j'ai sur le mien.
Bon, mais parfait, ils sont déjà disponibles.
Oui, c'est le Vive Deluxe Audio Strap.
Oui, c'était ça.
Voilà, qui permet de...
Donc, ouais. on peut fort probablement sous-entendre que ça va aussi être inclus dans la suite comme étant
fort
dans la deuxième version, fort probablement. Donc, on en sait beaucoup moins sur... sur le Vive que sur Oculus. Mm-hmm. Sont moins fans des réseaux sociaux, je suppose, pour partager des informations. Du côté de Sony, avec leur fameux Project Morpheus, donc le PlayStation VR.
Rien qu'une pilule bleue et une pilule rouge.
Ouais.
Je comprends pas la réflexion. Non, c'est une joke.
Présentement, au niveau du PlayStation VR. Oui, c'est ça, merci, Marc. Au niveau du PlayStation VR, il n'y a absolument aucune information quelconque, quoi que ce soit. Fait que c'est que des spéculations. Mais ça serait vraiment. Surprenant qu'il y ait de l'amélioration, quoi que ce soit, au niveau du VR, le PlayStation, tant qu'il n'y aura pas une nouvelle console. Donc, probablement que les améliorations au niveau du VR faites par Sony vont être attachées aux futures consoles. Il y a des grosses chances que le PlayStation 5 soit une console qui soit vraiment qui mette de l'avant le VR, qui va probablement arriver avec des technologies wireless ou avec un meilleur tracking, meilleure qualité d'image, meilleur, en fond, d'aller rejoindre peut-être la compétition avec une PlayStation de salon, une console de salon faite pour ça.
Mais c'est clair, je pense que ce que Sony a fait là, c'était une espèce de demi-mesure. Tu sais, c'est, ouais. On met un orteil dans le VR, mais tout avec de la tech qu'on a déjà. Comment ils servent des controller move, là. Ils servent d'une manette qui ont abandonné la génération d'avant.
C'est comme si Nintendo ressortait plein de jeux de Wii U.
C'est comme si Nintendo faisait un jeu pour la Switch, mais que tu peux utiliser ton vieux tapis de la NES pour courir.
Tu veux du Power Pad. Nice, j'achète.
Imagine, c'est comme un compteur de VR. T'as un casque de VR avec ta Switch dedans, puis tu cours sur le tapis pour courir.
Bar pad.
Tu déplaces le pad. Ça serait génial.
Ça fonctionnerait super bien. Tu sais, pourquoi prendre le balance board de la Wii quand tu peux prendre le power pad du NES?
Mais ce que je trouve intéressant de Sony, c'est s'ils prennent cette approche-là, si jamais le PlayStation 5 devient un peu la console du VR, vraiment avec un système fonctionnel puis relativement abordable, ça pourrait quand même un game changer, parce que ça vient briser l'idée que tu as besoin d'un ordinateur assez performant, un ordinateur de gaming. Tout est inclus dans la même boîte. Ça pourrait être... Je pense que présentement, Sony sont ceux qui sont fait une de la plus grosse place du marché.
Ouais.
Littéralement. Puis... S'il continue dans ce sens-là, ça peut être quand même un joueur majeur dans la suite des choses. Il y a Windows qui veut se faire casser le party puis venir se mêler de tout ça. En fait, Microsoft, qui prennent une optique plutôt que de réalité mixte.
Ouais.
Donc, on veut vraiment mélanger la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, d'avoir des expériences où, littéralement, soit on est dans un monde virtuel ou une expérience plutôt où on superpose des éléments virtuels à notre environnement, ce qui nous entoure. Ça avait commencé avec le HoloLens, qu'on a parlé tantôt. HoloLens qui coûtait comme 3 000 $.
Ouais,
qui était,
le dev kit.
C'est ça, c'est le développeur, puis c'est vraiment ciblé, puis qu'il n'y a pas vraiment eu de suite à ça. Mais qui est des technologies qui ont été comme reprises et... cannibaliser un petit peu dans d'autres headsets. Puis le plus proche qu'on a d'un release, là, c'est Dell ou Acer?
Acer, en premier.
Acer qui vont en faire un, en fait. Puis là, on vise vraiment... Microsoft vise des headsets d'entrée de gamme à des prix plus abordables. On parle du 200 $, 300 $ US. Et c'est surtout des headsets avec deux caméras en avant. Si on pense le headset là, de Acer qui ressemble au... j'ai cherché, puis le nom ne me vient pas, mais le visionnement...
Le Viewmaster,
ouais. On pouvait voir les photos avec le qui tourne en avant.
Mais s'ils font compatible pour les roulettes de Viewmaster, j'achète. Avec un piton, je suis clair.
Puis en plus, toutes les casques de Microsoft utilisent leur technologie de tracking inside-out.
Exactement, donc c'est tracking inside-out, c'est les deux, à la fois VR et AR, donc réalité augmentée, caméras, là, ouais. Avec les deux caméras qu'il y a en avant. Et aussi, c'est des casques qui... Le casque Acer, la visière peut se soulever. Mm-hmm. Un peu comme un casque de soudure.
Voilà.
Donc, qui me permet de soulever pour interagir avec l'environnement sans avoir à se débarrasser du kit complet.
ce qui n'est pas une mauvaise idée. Là.
Ouais, exactement.
Ça te casse une expérience VR, par exemple, d'enlever ça straight. Là. Clac!
De jacker out ouais, c'est du ça. VR.
C'est comme se déplugger dans la matrice.
Et voilà.
On peut pas mourir.
Non, c'est ça. Je n'ai jamais entendu parler. on n'avait pas un extrait audio sur le soundboard de la matrice?
C'est le meilleur que dans mes souvenirs.
Dans ma tête, les effets spéciaux étaient meilleurs.
C'est vieux.
Ouais, hein. Ça vieillit pas bien. Ouais, non,
le 3. Tu sais.
En gros, c'est ça pour ce qui est des casques de réalité virtuelle. C'est pas mal ce qu'on connaît là, de ce qui s'en vient. Donc, on parle de sans fil et on parle de. Meilleurs écrans, évidemment, tout ça, casque audio intégré, principalement, et positionnement sans caméra, donc plus de liberté, plus de plus se déplacer dans notre environnement. Il y a aussi au niveau du ce qu'on appelle le hand tracking, au niveau des contrôleurs, comme tu as mentionné tantôt. Et évidemment, tu as les premiers pas dans le VR qui se faisaient avec une manette de Xbox qui était offert avec le Oculus Rift au début, en fait, qui n'était pas très naturel, qui se porte pas nécessairement bien à ce médium-là. On a HTC qui est arrivé avec la Vive, avec les contrôleurs qui étaient fournis en même temps. Oculus qui a répondu peut-être un peu trop tard, ce qui les a fait un peu mal au niveau du marketing, là, décidément. Mais le futur s'enligne vers des technologies plus ouvertes un petit peu. Il y a une rumeur, en fait, qui a été partagée par Zuckerberg directement sur sa page Facebook, où on le voit avec des gants, littéralement, qui permettent d'interagir avec un univers en VR, donc un contrôle. On pourrait le croire peut-être un pour un de nos cinq doigts, de nos deux mains.
Le seul problème qui avait été relevé, en fait, de ça, c'est que c'était quand même basé sur Constellation, sur le système de tracking.
Ouais, il y avait les caméras, on voit sa photo. Ouais.
Ce qui fait que l'angle de vision était relativement restreint présentement. Mais je pense que c'est vraiment une direction intéressante. Là,
Mais dans la photo qu'il avait affichée avec l'information de ça, il est en train de faire du web shooting à la Spider-Man. Juste pour ça, ça vaut la peine.
Tant que c'est meilleur que le jeu de Spider-Man. Ouais.
Méchant, on entend vos voix, plein de choses. Mais...
Sinon, dans un futur probablement plus rapproché, dans une technologie qui est plus viable probablement, les deux compagnies, donc Facebook et Team VR.
Ouais, dans ce cas-là, c'est Valve directement.
Travaille sur des contrôleurs qui permettent d'ouvrir la main vraiment, là, comme tu disais. Mais Oculus a le même concept de contrôleur qui permet justement de ne pas tenir la manette, mais qui serait attaché à notre paume, qui permet d'ouvrir la main, donc avoir les mains un peu plus libres pour vraiment pouvoir avoir une impression d'immersion, je suppose, dans nos univers. Donc, au niveau des contrôleurs, c'est pas mal les informations qu'on a. Ce que je trouve très intéressant, mais qui est probablement plus loin comme technologie, c'est au niveau du eye tracking, donc au niveau de la technologie qui permettrait de suivre le regard, qui a été mentionné par Zuckerberg justement comme étant un projet qu'il cherche à intégrer dans la prochaine Rift. Présentement, c'est probablement la plus grande faiblesse de la réalité virtuelle, puis ce qui donne mal au cœur aux gens qui en font longtemps, c'est que tout ce qu'on regarde, finalement, c'est tout sur le même focus, sur la même distance. Donc, c'est un écran qui est situé à un pouce et demi de nos yeux.
Donc, tout est toujours en focus.
Tout est tout en focus. C'est un focus égal. Et nos yeux ont la difficulté à s'adapter. C'est ce qui nous donne de la difficulté. Donc, il y a des technologies d'eye tracking qui cherchent à être capable de reconnaître où nos yeux regardent pour être capable de modifier le focus artificiellement à travers l'image. Donc, ça donnerait une expérience plus naturelle, plus réelle. Puis même au niveau du gameplay, ça pourrait être génial. On peut s'imaginer un jeu où les personnages, les NPC, les intelligences artificielles sauraient si on les regarde ou non, par exemple. Donc, dans une conversation d'un RPG, tu parles avec le NPC, puis si tu regardes ailleurs ou si tu regardes sa craque de boobs, ben les commentaires pourraient être passés en conséquence. Fait que ça pourrait amener un autre aspect très, très intéressant au jeu. Ça devient finalement comme un contrôleur de plus. Qu'on pourrait utiliser en réalité virtuelle. Puis il y a une autre technologie qui est développée par Facebook, si je ne me trompe pas, qui est en anglais, le Focal Surface Display. Donc, l'affichage à surface focale, on va dire ça comme ça, qui est un peu en lien avec l'eye tracking, justement. Parce qu'une des difficultés d'affecter le focus de façon artificielle, c'est que ce n'est pas naturel non plus. Donc, ça va vraiment. Ça demande quand même un certain pouvoir de computing, c'est au niveau de la carte graphique, ça va être demandant de modifier une image pour rendre floue certaines profondeurs. Puis présentement, les façons qu'ils ont de le faire, c'est de séparer l'image en différentes couches. Donc, si par exemple, on a une image, puis on regarde un champ, on va séparer le champ en, je sais pas, une dizaine de couches différentes, mais les objets qui vont être entre deux couches vont quand même être sur le même point de focus que ceux d'en avant ou d'en arrière, peu importe, il faut prendre une décision. Donc, ça l'aide un petit peu, mais c'est pas parfait. Ce que cette technologie-là amène, c'est d'insérer entre les yeux de l'utilisateur et l'écran un autre appareil qui, lui, va s'occuper de modifier ou de distordre.
Ouais.
de modifier puis de la lumière qui traverse à travers une deuxième fausse lentille pour donner un faux effet de focus, finalement.
C'est comme aller chez l'optométriste, dans le fond, puis qui te rajoute
des
lampes d'en face juste pour t'écrire un effet.
Exactement, mais de façon dynamique, puis à travers tous les pixels de l'image. Donc, il faut vraiment imaginer que si j'ai une photo, je suis capable de tirer ma photo à travers différents éléments, puis en faire comme une map en trois dimensions, comme une montagne en trois dimensions qui représenterait l'image que je peux voir.
C'est probablement moins cher de l'heure aussi.
Mais la technologie existe déjà.
Okay.
C'est déjà là. Le défi, présentement, c'est juste de, je suppose, la rapetisser pour être capable de l'intégrer dans un headset. Puis tout ça, ce qui vient, en fait, ça vient éliminer l'effet qu'appelle le conflit d'accommodation divergence.
Oh.
Donc, on sort les grands mots aujourd'hui à Duvant Quest. Donc, c'est, il faut accommoder des verges, mais on est en conflit avec ça. Donc, non, les vergences, qui est l'inverse de la convergence.
C'est pas de divergence?
Non, c'est vergence. C'est un mot en français. J'ai cherché.
C'est bon.
Donc, c'est ce qui fait que nos yeux, à une même distance, nos yeux ont de la difficulté à focusser quand tout est à la même distance. Partout, on n'est pas capable de faire la différence entre les deux. Donc, cette technologie-là viendrait faire en sorte que là où on regarde, il y aurait une genre de lentille qui s'adapterait puis qui viendrait distordre.
modifier.
Comme une espèce de cristallin inversé, parce que ton cristallin, c'est ce qu'il fait.
Exactement.
Jouer comme avec, dans le fond, se déformer pour comme que tu fasses le focus. T'sais.
Exactement. Donc, c'est
un cristallin qui est devant ton œil, qui
pour faire l'autre
l'image.
Job, puis là, ton cristallin la remet, puis là, tu comprends le 3D. Je comprends l'idée. Scientifiquement, je le comprends.
Là, je la comprends.
Un prof de science, ça donne ça.
Merci, prof. Mais ça, c'est une technologie qui existe déjà. Les appareils existent déjà. Ils peuvent le tester. Puis il semblerait que les résultats sont beaucoup mieux, justement, que de créer des couches différentes puis d'y aller de façon artificielle au niveau de la carte graphique pour faire les focus artificiels. C'est sûr que c'est le next best thing, parce que la technologie idéale, ça va être la projection holographique qui, ça, permettrait d'avoir un mapping en trois dimensions de n'importe quelle image avec les focus, qui, présentement, c'est pas viable,
une
on va se dire,
fois.
Une chose à la fois. Donc, pour l'instant, c'est une technologie que Facebook évalue de peut-être intégrer dans les prochains headsets. Donc, ça pourrait potentiellement que la prochaine génération pourrait éliminer justement les mal de cœur, que tellement de personnes se plaignent de vivre quand ils testent le VR. Donc, en gros, on peut dire que le VR, ça fait comme un pas de géant qui... On pensait qu'on en a tellement rêvé, on en a tellement parlé, puis on a tellement espéré que ce soit quelque chose qui reste, puis que ce soit pas un feu de paille.
Que ce soit pas le motion control all over again.
Ben c'est ça. Et je pense que c'est un pari qui réussit. Je pense qu'il y a une belle volonté de travailler ensemble, de rendre des expériences, puis que je pense que les gens qui travaillent derrière ces produits-là comprennent l'importance que c'est pas le temps de faire une guerre de commercialisation, de vendre mon produit, mais c'est le temps de vendre la technologie en tant que telle, ce qui est génial. Je pense que maintenant, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est prouver que c'est une technologie qui peut rester puis qui va avoir une durée viable à long terme, puis ça va passer beaucoup par le prix. Mais évidemment, une technologie comme ça, c'est toujours le software joue toujours un rôle majeur dans la vente de ça pour adopter une nouvelle plateforme. Donc, on attend les expériences.
Les jeux qui vont dire à tout le monde qu'ils n'ont plus le choix de passer au VR.
Tu sais qu'il y a Lone Echo là, qui est marqué comme le Mario 64 du VR en ce moment, qui est peut-être une exagération un peu.
Pas mal.
Mais au moins, on en a de plus en plus des expériences plus complètes. Donc, à suivre pour le VR.
On dirait que vous l'aviez oublié. Ouais, fait que moi aussi, je suis dans le VR. Non, c'est l'été. Hein? Fait que ça me donne plus de temps à moi, personnellement, pour jouer à d'autres types de jeux. Fait que j'ai décidé de revenir, surtout avec la pluie qu'on a eue, mettons, à des jeux que j'avais mis de côté depuis un bout parce que le temps il me manquait. Hein? Fait que j'ai décidé de revenir à mes bons vieux RPG. Je voulais retrouver un peu ce style-là que j'ai tout le temps beaucoup aimé. Mais comme un moment donné, là, mettre 20-25 heures sur un jeu...
Non, pas tout le temps.
Juste sur un seul jeu, parce que je joue, c'est un nombre d'heures-là, c'est pas ça le point.
T'as lâché WoW, là, fait que...
Écoute, le temps libre.
T'as pas eu une rechute?
Oui, j'ai une rechute pour faire quelques quests en particulier, fait que j'ai pas joué comme 60 millions d'heures. Là. Okay. C'est vraiment le fun, mais c'est sûr.
C'est sûr. Mais si tu l'avais pas déjà spoilé, de quoi donc vas-tu nous parler?
Ben c'est ça. Fait que j'avais le goût de rejouer à un RPG. J'avais pas le goût de refaire ma 302e game de Lufia 2, là, que j'ai comme toujours jamais fini pour un paquet de raisons. Fait que je suis allé fouiller sur les web Pew Ternet. Puis j'ai découvert dans des listes de bons RPG Robotrek, qui était un jeu que je connais pas en fait, Robotrek. Donc développé par Quintet, qui ont fait aussi ActRaiser, Legend of Gaia, Terranigma. Puis Ancient, là, qui a fait un paquet de trucs, mais rien qui a comme pris mon intérêt. C'est de même. Si j'ai pas été intéressé, c'est pas important. Bref, puis Ancient. C'est un RPG qui est sorti en 94 au Super NES. Dans le fond, sorti et publié par Enix, qui était comme une des deux grosses compagnies avant qu'ils fassent une fusion à la Dragon Ball, puis qui devienne Square Enix.
Ouais, c'est même ça s'est passé. Ils ont juste comme mis leurs doigts ensemble.
Ben, level 9000, let's go!
Et voilà, ça a donné.
Ben, moi, dans ma tête, c'est ça. C'est deux compagnies japonaises, fait que c'est même ça marche.
Ils ont regardé leur budget, puis ils ont dit « It's over 9000!
» Bouh!
Fait qu'au départ...
Contrairement au mien.
T'as dit qu'on n'en parlait plus, OK?
Moi, j'ai le droit. Vas-y, Dan.
Donc, au départ, ça m'a semblé un RPG assez classique, là, où est-ce qu'on se promène sur une map, on fait des combats tour par tour, on gagne de l'XP. Il y a quand même des différences qui rendent le jeu intéressant, puis c'est pas juste un clone de Final Fantasy ou Dragon Quest, là. Donc, le jeu se passe sur une planète qui s'appelle Quintenix.
Tabarnak.
Ouais. Puis qui se trouve avoir un niveau technologique un peu plus avancé là, que nous, mais pas énormément. T'sais, c'est un peu plus avancé que la Terre, mais c'est pas non plus là, des affaires de fou.
Okay.
Fait qu'ils ont du VR sans fil.
Ben, tu ris, là, mais j'en parlais pas dans ma review là, parce que c'est pas super intéressant dans une review, mais il y a un item à un moment dans le jeu qui te permet de rentrer dans les ordinateurs, puis l'icône a vraiment l'air d'un casque de VR là. Fait que c'est ça, tu rentres dans les ordinateurs en VR, tu te promènes puis tout.
Pis jeu, c'est encore son segment Shadowrun qui continue. Calisse.
Tu peux pas faire autre
chose. Encore depuis l'épisode 5.
Donc, notre personnage, c'est le fils d'un inventeur là, qui est connu dans le fond dans ce monde-là, qui s'appelle le docteur Akihabara, qui vient de déménager dans la ville de Rokoko.
Oui, Akihabara, qui est un gros quartier à Tokyo.
Ben, en fait, le jeu au Japon s'appelait Slapstick. Okay. Fait que le côté comédique un peu ridicule noms est comme basé là-dessus. T'sais, c'est comme, OK, on va faire des gags vraiment gras, comme beaucoup trop faciles, puis c'était voulu. Mm-hmm. Mais ça n'a comme pas été traduit. T'sais, c'est devenu Robotrek. Fait que le côté comme un peu ridicule puis niaiseux a juste l'air un peu ridicule puis niaiseux. Fait que voilà. Fait que ils viennent déménager dans la ville de Rokoko. C'est ça. Mm-hmm. Puis un groupe de méchants hackers, le groupe s'appelle les hackers, qui a un H majuscule.
C'est important, capitaliser.
Non, mais tu sais.
C'est les originaux.
C'est les premiers. Dans le fond, ils veulent la collaboration de notre poupa, puis c'est de là que va partir un peu la patente de toute l'histoire du jeu. Le jeu commence, ton père s'en va à sa. Dans le fond, ton ancienne maison, là, qui est à un point sa map de distance. Puis il te laisse un livre qui t'apprend à fabriquer des robots. Fait que là, tu vas fabriquer ton premier robot. Puis c'est un des éléments centraux du jeu parce que dans les combats, c'est pas toi qui se bats, mais c'est ton robot que tu contrôles. Un peu comme un Pokémon. Heureusement, le jeu est sorti avant Pokémon.
Quand même,
ils ont pas l'air d'avoir copié. Là. Même si ton robot, quand tu vas dans le combat et tu le changes, il vient d'une capsule rouge et blanche. Là.
Aïe, aïe.
Ouais. C'est ça.
Pokémon ont tout copié en exclusivité à Divan Quest.
Voilà.
Voilà.
You heard it first.
Fait que tu fais ton premier robot. Dans le fond, au début, t'en as un, tu peux en avoir trois à la fin, mais ils sont tous pareils visuellement, ce qui est un peu plate. Là, tu peux juste changer la couleur.
Avec une belle palette RGB avec des sliders, si mon souvenir est exact.
Exactement ça. Fait que j'ai commencé avec un noir, parce que j'ai eu un bleu puis un mauve. Ah, c'est correct, j'ai pas changé. Hein, ça fait un job. Fait que voilà, tu décides de tu fais ton robot, tu t'en vas voir ton père, tu te rends compte qu'il est en train de s'ostiner avec un hacker, puis il se fait kidnapper, puis tu vas le sauver, nanana. Ça part un petit peu comme ça. Donc, ton petit robot, qui a l'air un peu câble, on va se le dire. Dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que tu vas gérer ses stats quand tu fais des levels toi. Quand tu fais des levels toi, tu programmes ton robot en lui donnant des stats, mais les points que tu lui accordes sont toujours modifiables. Soit quand tu fais un level ou quand tu vas dans une place de R&D, là, de Research and Development, qui a l'air d'une grosse manette de Famicom avec un écran de poignée après. Là. Puis tu peux comme tout le temps changer les stats. C'est le fun parce que tu te rends compte que ton robot, tu as mis beaucoup trop de force, mais qu'il se fait péter à gueule en un coup par un ennemi. Tu peux mettre plus de défense. Puis,
Le respect qu'à volonté avant toutes les RPG sur PC.
Oui, et sans
tout le monde a tout copié, Robotrek a tout inventé.
Voilà, you heard it first.
Encore une fois.
Donc voilà, tu peux gérer un petit peu ça. Ça te permet de customiser un peu ta façon de jouer aussi, un peu comme ça. Dans le jeu, tu vas trouver des livres qui traînent un peu partout dans les tablettes, dans des maisons, sur des étagères. Puis ces livres-là sont pas juste là pour le show. Ces livres-là, quand tu cliques dessus, dans le fond, tu vas apprendre à fabriquer des objets parce que c'est les, je cherche le nom, le Inventor's Friend, le genre des revues, si on veut. Là, puis dépendant du volume que tu pognes, ils vont t'apprendre différents items. Mais si tu pognes, mettons, le level 22, puis toi, ton bonhomme, il est juste level 12, ben ça dit juste, ah, c'est trop compliqué, tu comprends pas. T'sais. Fait qu'en montant de level, tu apprends à fabriquer des nouveaux items de cette façon-là. Ces items-là, dans le fond, ça peut être des armes que tu vas mettre sur ton robot, à équiper à ton robot, ou ça peut être des items que tu vas utiliser, là, genre des trucs pour guérir. ou des items aussi, des fois, qui sont des genres de key items pour le jeu qui te permettent de faire des interactions.
Puis, si tu les revues, t'es vraiment dans ton inventaire ou faut que tu backtrack pour aller les rechercher quand tu montes des niveaux?
Faut que tu backtrack pour aller les chercher quand tu montes des niveaux, mais ils sont pas vraiment partout. Là. Généralement, tu vas en trouver dans ta maison, dans la maison de ton père là, qui est dans un petit peu plus loin sur la map, dans genre le premier magasin que tu rencontres, puis dans un ou deux labos que tu vas croiser en jeu, mais généralement, quand tu crois dans le labo, t'as le bon level pour apprendre les items.
Fait qu'on dira pas qu'ils ont inventé le backtracking avant.
Non, mais ils ont quand même une option sur les mécaniques de crafting, par exemple.
Quand même. Puis j'allais dire, pour finir sur les livres, qu'il y a une place, une genre de planète cachée vers la fin où est-ce que tous les livres se retrouvent aussi. Fait que si t'as manqué quelque chose, tout est là.
Tu commandes du Indigo.
Il arrive deux jours après. Ouais, mais justement, il y a un système de crafting... comme tu disais, Mathieu, qui va venir avec les livres qui permettent de juste crafter un item que tu as appris à crafter, mais il y a aussi un élément où est-ce que tu peux combiner deux items. Fait que tu prends deux items dans ton inventaire, tu les combines pour en faire un nouveau. Si tu prends par exemple deux épées, ben, tu peux les combiner pour faire une épée qui est de plus haut niveau parce que toutes les armes peuvent monter de niveau 1 à 9 là, qui les rendent plus fortes. Ça se fait comme ça ou en trouvant des capsules en te battant dans les combats. Bref, t'as cet élément-là qui est là. Tu peux crafter des items aussi en partant d'autres items. Tu sais, je prends une cure puis un repair, ça me fait un clean puis des affaires de même. Puis tu peux aussi, il y a des items qui s'appellent des scraps que tu trouves un peu partout dans le jeu qui te permettent de crafter aussi des items très très puissants. Bon, je me rapporte en 94, à l'époque des Nintendo Power, etc., là, ça devait être quand même un solide chiard parce que c'est du gros SRR. La bonne nouvelle, c'est que si tu fais quelque chose qui fera rien, ils vont pas te scraper tes items puis te dire « Ah, t'as fait de la merde, va vendre ça 5 pièces d'or. » Si ça marche pas, ils disent « Ça marchera pas », mais c'est quand même genre, bon, ben, c'est la scrap numéro 8 avec tout ce que j'ai dans mon inventaire, voir ça donne de quoi. Je suis quand même allé voir sur Internet, là, on est à l'heure de l'Internet, je me trouve une belle liste. Ça va aider à faire de quoi d'utile.
Fait que sur cette terre-là, qui est un peu plus avancée que notre terre, ils n'ont pas Internet pour te montrer ça.
Ben non, parce qu'il était en 94.
je me rappelle par contre qu'à l'époque, parce que j'avais le jeu sur SNES, on l'avait acheté neuf à l'époque, il y a un poster dans la boîte du jeu qui donne des guides de crafting.
Quand même.
C'est pas complet. Je pense pas que c'était complet, là, mais il y en avait quand même une bonne sélection qui se trouvait donc dans les instructions avec le jeu. Donc c'est même pas une histoire de Nintendo Power. C'était vraiment... il était plus gentil que ça.
Ouais, mais ça n'était pas complet, fait qu'il y avait quand même des bouts que...
Ouais, mais ça, man, un jeu a le droit d'avoir des secrets, là.
Il faut bien. Ben, ils ont pas inventé ça, eux autres, les Easter eggs?
Peut-être. Je calme.
Fait que voilà, c'est ça. T'sais, fait que t'as ton robot au début, t'as sa petite épée, t'as un petit piou-piou sur ton robot, puis tu commences à te battre contre des ennemis, contre des hackers, contre des patentes un peu weird, là, des gorilles avec des casques de football, enfin, même. Dans le fond, côté intéressant, c'est qu'au niveau du combat... c'est contrairement à un Final Fantasy, t'es pas comme sur une place fixe puis tu frappes sur un ennemi en bougeant une épée dans le vide. Faut que tu te déplaces sur la map. Un genre de proto jeu de tactique, là, on pourrait dire. Là, pas au niveau des tactiques Ogre et des affaires comme ça qui ont existé sur le SNES, mais...
Non, mais plus à la Mega Man Battle Network puis tout ça, là, où ce qu'on a des... Bref, des positions à l'écran qu'on se déplace.
T'as comme trois lignes dans l'écran qui t'ont à te déplacer de gauche à droite. Puis, tu sais, si tu veux te battre avec un ennemi avec ton arme de mêlée, ben, faut que tu te déplaces puis que tu te rendes à lui. Tu as le côté aussi d'être en arrière d'un ennemi pour faire plus de dégâts. Donc, ça a un peu cet effet-là. Parlant combat, en dehors de ça, la manière que ça fonctionne, tu as aussi une jauge à l'écran là, qui est une genre de Active Time Battle, là, comme on retrouve dans un paquet d'autres RPG, qui monte à mesure que le temps passe puis qui te permet d'utiliser tes attaques. Côté intéressant, c'est que dépendant des attaques, des armes que tu utilises ou des. Appelons ça des magies, là, mais c'est des programmes que tu peux composer. Ça va la faire descendre plus. T'sais. Fait que c'est un coup d'épée, ça en fait descendre pas trop. Un coup de fusil, ça descend un peu plus. Une bombe, ça en fait descendre beaucoup. Puis tu peux programmer des attaques spéciales à ton robot. J'ai pas beaucoup joué avec ça. C'est un peu comme ce qui correspond à des magies, si on veut, dans le monde de Robotrek. Tu vas aller dans le système de programmation de ton robot, puis tu vas dire, ben, par exemple, donne un coup d'épée, un coup de gun, un coup d'épée. Puis il y a certaines combinaisons qui vont faire vraiment des attaques spéciales, genre tu sautes en arrière de l'ennemi pour le frapper dans le dos, des trucs de même. J'ai pas beaucoup joué. Ce que j'ai utilisé souvent, par exemple, c'est trois coups d'épée. Mm-hmm. Parce que ça faisait pas trop descendre ma barre, mais ça faisait quand même beaucoup de dégâts. Trois coups de gun qui étaient quand même cool parce que ça tirait dans toutes les trois lanes. Fait que les petits ennemis poches, à un moment donné, ça les détruisait rapidement. Puis, bon, si tu missais un coup, t'étais un peu dans le chenou parce que ça te vidait complètement ta barre. Puis c'était très long à remonter avant de pouvoir réagir une autre fois. Mais il y a un petit combat qui était intéressant. Puis encore là, dans un univers de Nintendo Power, ça devait être un peu de la chenoute de comme trouver des programmes hot, à part en faisant du gros SRR de OK, je donne un coup d'épée, marteau, puis voir ça donne. Mais, tu sais. Quand même un système intéressant, plutôt que d'apprendre les magies ou d'aller les acheter ou des trucs comme ça, ben non, c'est tu programmes ton robot, fait que programme ton robot. Voilà un peu pour le combat. Dans le combat, oui. Je me perds moi-même. Il y a un petit côté, comme je disais tantôt, Pokémon, où est-ce que tu vas comme contrôler un personnage à la fois, mais contrairement à Pokémon, où est-ce que tu vois juste comme le dos de ton personnage puis il se promène pas, ben, je l'ai expliqué tantôt, il y a le côté un peu plus tactique. Tu contrôles un robot à la fois, même si en a plusieurs. Quand il meurt ou si tu veux le changer, tu changes pour le prochain dans ta liste. Tu peux organiser, dans le fond, dans quel ordre les robots vont se passer d'un à l'autre. Puis sur la map de combat, ben, en plus des ennemis, il y a des petites capsules qui ressemblent à des Pokémon, là, comme je disais tantôt. Ça, c'est un peu particulier. J'ai pas vu ça dans aucun autre jeu. Ces capsules-là, dans le fond, dans le jeu, pendant le combat, si tu vas les frapper pour les ouvrir, finalement, peuvent soit ben, contenir rien du tout, juste péter, de faire genre un ou deux dégâts, mais ils peuvent aussi te ramener tous tes points de vie, ce qui est quand même très nice, ou, dans le fond, faire monter tes levels de tes armes. Fait que c'est quand même une mécanique assez intéressante. Tu sais, si tu craftes une nouvelle arme, genre vers la fin du jeu, ben pas très forte, et moins forte que ce que tu avais avant, mais tu fais comme, bon, je vais aller faire une coupe de combat contre des petits ennemis, pas tant pour l'XP, mais que pour comme que grinder des petites capsules.
Puis ça devient une mécanique de risk-reward, de ouais. Je me donne ça à peine d'aller péter ça, même si je peux me faire péter. Puis
t'as un certain temps pour les péter, parce que t'as un timer dans le coin de l'écran qui te gère, comme après ça, quand il est fini le timer, les capsules sautent. Puis ce timer-là va aussi gérer de l'XP de bonus. Là. Si tu utilises les ennemis assez vite, t'as un peu plus de bonus d'XP. Parlant d'XP, c'est très drôle parce que l'XP dans ce jeu-là, c'est pas de l'XP, c'est des megs de data. C'est quand même nice, là, c'est un beau petit clin d'œil.
Qu'est-ce que tu as avec ça, des megs? Tu rentres rien.
En
94, quand même.
T'sais, c'était gros, là. Je veux dire, hey, c'est dans le futur, ils vont avoir des megs.
Wow.
Donc, si j'en reviens un petit peu à l'histoire, juste pour. Parce que c'est quand même un point intéressant dans un RPG.
Bouf.
Ben, je te dirais que dans Robotrek, si tu oublies l'histoire, ça devient long parce que les combats sont répétitifs assez rapidement. Fait qu'heureusement qu'il y a une histoire. Encore là, c'est pas l'histoire du siècle non plus. Fait qu'il y a les méchants hackers qui veulent, dans le fond, forcer notre poupée à travailler avec eux autres pour faire quelque chose d'evil. On sait pas trop ce que c'est. Ça nous propulse dans une aventure où est-ce qu'on va finir par parcourir tout le monde. On va visiter des volcans, des forteresses dans les montagnes. On va aller sur une île où est-ce qu'il y a comme une espèce de tribu d'arborigènes qui dansent.
Ils sont vaguement racistes.
Vaguement racistes. On va trouver comme un avion, un moment qui nous permet d'aller d'une place à l'autre. Qui est classique quand même. Mm-hmm. Puis on va même visiter d'autres planètes, finalement. Bon, OK, visiter d'autres planètes, c'est vraiment relatif. Là. Je ne sais pas si tu es rendu, Matt, assez loin. Il appelle ça d'autres planètes, mais c'est comme un donjon dans une autre planète. Là. Tu visites pas vraiment la planète. Tu arrives, ah, ça va sur l'autre planète, puis c'est un donjon. Il aurait pu être sa map principale, mais ça aurait été moins sci-fi. Là. Bref, c'est ça. Il y a une ville sur une planète, il y a un donjon sur une autre planète, that's it. Mais l'histoire est cheesy au bout. Là. Comme je disais tantôt, le jeu, le nom japonais, Slapstick, ça amène ce côté-là. Puis je pense qu'en amenant pas ce côté-là dans le titre du jeu ou dans un sous-titre, quelque chose comme que c'était un jeu qui était léger, qui était plus comme humoristique, ça a dû leur faire mal parce que les ventes ont été assez moyennes. Là, une vingtaine de milliers de copies, là, ce qui n'est pas immense là, côté US, là, ou en tout cas côté peut-être européen aussi. Mm-hmm. Fait que voilà, j'ai parlé du système de crafting, j'ai parlé des scraps. Une chance qu'on a les interviews plus web. Fait que, tu sais, je dois avouer là, que j'ai rarement autant sacré en jouant à un RPG. Même si je l'ai aimé, là, j'ai vraiment beaucoup sacré. Il y a quand même des éléments qui sont assez discutables au niveau des choix du design. Un, je suis mort souvent. Puis dans un RPG, c'est quand même assez rare. D'habitude, tu meurs si t'es un peu intelligent, si tu fais attention à tes affaires, si tu te gères. Mais c'est pas que les monstres étaient comme trop forts, c'est pas parce que, genre, tu sais, souvent ils donnaient des coups qui me faisaient perdre un ou deux dégâts, fait que à un moment donné, tu finis par devenir un peu cocky, tu sais, comme, ok, ma vie baisse, mais tellement lentement que ça passera rien. Mais à un moment donné, ils te redébarrent, ils font un crit qui te fait pas comme double ou triple dégâts, là, qui te fait genre 20 fois le dégât. Fait que le monstre me fait 2-3 de dégâts, il me crit, je fais 200.
voyons donc.
Puis là, ben.
It's super effective!
Ben, c'est ça. Puis, tu sais, si t'arrives 2-3 fois de suite, là. Ben là, t'es game over. Ah, puis là, ben, tu sacs un peu parce que le système de save aussi est assez particulier. Il est vraiment cool parce que tu peux saver à bien des places. Tu sais, c'est pas des save points qui sont fixes, qui sont statiques sur la map. Ton système, c'est soit de parler à une madame dans une ville, ben, au début, tu as l'impression que c'est ta mère, t'apprends finalement que c'est un robot qui ressemble à ta mère, là, et quoi de weird là-dedans, là. Moi, je pense qu'ils ont inventé les sex dolls aussi.
Avant-gardiste, ce jeu-là.
Eh oui, parce que. Mais dans le fond, au début du jeu, elle donne un espèce d'item qui permet de l'appeler. Là. Ils ont inventé l'iPhone.
Ah, oh, ben c'est comme Earthbound, finalement.
Ouais, mais il n'était pas cellulaire dans Earthbound.
Ben non.
Téléphone fixe. Bref, tu peux appeler pour CV, puis tu peux appeler à plein de places. Mais des fois, random, ça te dit, ah, il y a trop de bruit, tu peux pas comme téléphoner. Mm-hmm. Puis c'est un peu. c'est un peu random.
C'est un peu arbitraire.
C'est assez arbitraire, ouais. Des fois, tu es dans une salle, il y a un paquet d'ennemis, tu peux pas appeler. Des fois, tu es dans une salle qui est vide, mais tu peux pas appeler. C'est voyons. Fait que, tu sais, des fois, tu
ouais,
penses.
Ils sont, d'abord, ils sont avec Vidéotron, parce que moi aussi, des fois, je suis un peu.
Fait que, des fois, tu sais, tu passes un bout sans penser à sauvegarder. Tu t'arrives pour sauvegarder, ça sauvegarde pas. Tu fais, ben, je vais prendre la prochaine salle. La prochaine salle, paf, il arrive quelque chose. L'ennemi te crit 3-4 fois de suite. Tu fais comme. Bon, ok, je suis mort, je viens de perdre genre une heure et demie de jeu. Ouais. Tu sais, genre d'affaires qui sont frustrantes, surtout pour. Qui reste pas mon premier RPG, là. Je veux dire, généralement, je pense à ces choses-là. Ouais. Fait que ça amène une petite frustration aussi à ce niveau-là. Les monstres sont de force assez inégales. T'es dans une zone, une forteresse, il y a des monstres, t'es tué d'un coup, ils te font deux de dégâts. Tu reviens d'abord, il y a un monstre que tu y fais comme 10, ça te prend 22 coups pour le tuer. Puis lui, à deux coups, il te tue, c'est comme. Ok, c'est pas mon level qui est pas bon, les autres monstres, j'ai tout d'un coup. Pourquoi lui, genre, il est comme intuable de même? Puis il n'y a pas d'explication, puis ça. Ça donne rien de grinder parce que, ok, si je prends, genre, mon robot qui a une arme un peu plus forte de corps à corps, je prends de dos, je peux le tuer, mais. Tu sais, ça devient comme. Puis c'est même pas de la gestion de mes robots sont tellement différents que j'aurais dû prendre lui au lieu de lui. Mm-hmm. Il y a comme de quoi de weird, puis. C'est ça. T'as des monstres qui sont juste très forts, d'autres qui sont vraiment en poche, puis. Oublie pas de CV très souvent si tu veux pas te retrouver à recommencer une heure et demie en arrière. Fait que c'est comme les éléments qui m'ont un peu frustré. Même chose avec certains boss, là. Tu sais, il y a certains boss que j'ai rushé ma vie. J'étais comme, il va falloir que je grind, ça n'a pas de sens. Je regarde sur Internet des guides. Le gars, t'es 3 levels en bas de moi. Ok, genre, il dit pas t'approcher trop, puis espère que lui se rapprochera pas trop. T'sais, oh yeah, c'est une belle stratégie.
Ouais, ouais.
Croise tes doigts. Puis d'autres boss que j'étais arrivé, puis 3-4 coups, le monstre était mort. Voyons, c'est ça. C'est comme.
Ça n'a pas l'air très bien designé.
Au niveau du design, il y a de la job qui aurait pu être mieux fait.
Mais tout, c'est quelque chose qui arrive souvent, j'ai l'impression, dans les jeux de NES, dans les premières consoles. Le quality control n'était pas top-notch.
Ouais, mais dans les RPG, c'est plus facile à contrôler. En général, c'est plus serré que ça. Comme
ouais,
design.
Mais tu sais, moi, je me demandais plutôt, s'ils ne sont pas capables de faire, ils ne font pas du quality control sur un jeu qui n'est pas un RPG, nécessairement.
Sure.
Tu arrives dans un jeu qui dure, je sais pas, 20 heures, mettons. Est-ce que tu vas te taper les 20 heures? Pour t'assurer qu'à tous les moments du jeu, la progression est idéale.
Il y a des méthodes de debug là, pour accélérer ça. Là. Mais en général, c'est ça le défi de composer un si gros jeu que ça. C'est pas tout qui est un Mario Bros. Là,
non, mais ça reste que c'est un. C'est peut-être une réalité de l'époque. Les jeux étaient peut-être pas aussi. La qualité des jeux était peut-être pas aussi bien suivie.
Mais c'est jamais arrivé dans un Dragon Quest ou dans Final Fantasy.
Ou tu sais, prends Terranigma que t'as parlé l'autre fois, où là, je suis en train de jouer à Illusion of Gaia, puis j'ai pas retrouvé cet élément-là, puis pourtant, c'est la même compagnie.
Mais tu sais, il y a des méthodes d'éviter ça qui sont pas si complexes. Il y a des manières mathématiques de calculer la progression d'un joueur. Puis, tu sais, comment juste le nombre de coups que ça prend à péter un ennemi, ça se calcule assez vite. Là. Souvent, les niveaux d'un jeu sont quand même assez contrôlés. Là, parce que tu sais comment d'XP les ennemis donnent, etc. Fait que tu as une idée du range de level que ton personnage va être rendu là. Ça,
ouais, puis j'aurais plus accepté, j'arrive à un niveau, puis tous les ennemis sont très forts. Ok, là, bon, c'est un jeu qui me demande de grinder.
C'est ça.
Mm-hmm. À l'époque, ça arrivait, mais c'était pas ça.
Non, c'est ça.
C'est comme, il y a un ennemi que je tue un coup, puis l'autre que lui, il me tue en deux coups.
Inégalité de la difficulté.
Ben, anyway. C'est ça. C'est assez à taux variable, mettons, là, comme ton hypothèse. On parle pas de ton budget, c'est ça. Une des affaires qui m'a déçu, c'était un peu la musique. Là. Elle est pas mauvaise, mais elle est un peu répétitive. Puis chiptune, là, c'est vraiment. Je n'ai même pas pris d'extrait comparé à d'autres jeux. Ma blonde était comme, bon, tu joues à ton jeu de robot. T'sais, elle l'entendait, puis c'est tout le même tune. Le combat, c'est la même tune. Donc, il n'y a pas beaucoup de variations. Mais malgré tout, là, j'ai eu quand même beaucoup de fun avec Robotrek. Même si les frustrations étaient là, j'étais comme, je mets ta manette de côté, puis j'allais faire d'autres choses. Ah, j'ai le goût de jouer à Robotrek. Je reprenais la manette, puis quand même, je recommençais.
J'ai le goût de pas apprécier mon temps.
Mais non, parce que j'avais, quand je jouais, j'avais du fun. Je connais qu'il y a une connerie qui faisait comme un monstre qui me cuitait comme 4 fois de suite. Puis là, je suis comme, merde, calvaire, tu veux que je fasse quoi? Là, il m'a fait comme 4 coups critiques de tuer, mes bonhommes sont tous morts. C'est pas ma vie d'être au base, mais non, il m'a tué d'un coup. Bref, j'ai quand même beaucoup de fun avec ça. Là. C'est une belle découverte. Puis, malheureusement, j'ai pas terminé le jeu. Hein, on se rappellera mon histoire de carte micro SD.
Ah ouais.
Ça. Fait que la save, j'étais rendu dans la dernière forteresse du jeu, la save était sur la carte micro SD qui a pété en deux. Mm. Fait que j'ai comme un ancien backup là, de quand je faisais des tests là, sur mon pipe, puis genre qui est comme 10 levels plus bas. À un moment donné, j'aurai le goût de le reprendre puis de le finir, mais pas là.
J'ai pas là. Non.
Ouais, fait que j'ai quand même donné un 3 pattes de divan robotique là, au robot que si tu frappes trop souvent dessus, ils vont te regarder avant d'exploser avec une face un peu épaisse, comme les petits robots. Puis je vais leur remercier de m'avoir permis de découvrir un RPG de mon époque préférée, des RPG que je connaissais pas. Et oui, hein, la fin de ce 50e épisode. Donc, si vous avez envie, si vous le pouvez, on vous invite à me donner un petit coup de main. Vous pouvez aller sur le patreon.com/divanquest pour trouver les derniers épisodes ou nous rejoindre de la façon que vous voudrez. Vous pouvez passer par le divanquest.com. Le podcast est disponible avec un paquet d'autres podcasts québécois sur le rzweb.com. Vous pouvez aussi maintenant aller liker des podcasts sur RZO avant que vous irez liker...
Vous irez lâcher aussi dans une playlist feature qui s'en vient la semaine prochaine, peut-être, là. Presque fini de coller ça.
Vous l'aurez su en primeur. Pour ceux qui écoutent là, la fin de choix. Sinon, vous pouvez aller voter sur baladoquebec.ca. On est vaniteux de même, on vous demande de voter pour nous partout. Sur iTunes, les petites étoiles. Puis voilà, ça nous aide à être plus visible. Sinon, on se revoit la semaine prochaine dans notre causeuse qui parle de créateurs de contenu vidéo dans les inter Piu Webnet.
Hey, on a sorti une coupe cette semaine.
Ah non, on s'est gâtés, on est en vacances.
Ouais.
Puis à bientôt, et d'ici là...
Game on!
Game on!